18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous retrouver en ce vendredi. Votre rendez-vous, 2 heures d'infos, d'analyse, de débat sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir. À la une ce soir, cette attaque terroriste au couteau à Londres, plusieurs blessés, le suspect abattu. C'est le titre de votre journal, Sébastien Krebs, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Des associations en action contre Amazon et la surconsommation un peu partout en France aujourd'hui, à l'occasion du Black Friday. À 18h20, mon invité, le directeur de Greenpeace France, ses offensives. C'est bien le seul moyen ? Et quid alors des salariés que cela met en difficulté ? Je lui poserai ces questions. Le débat des grandes voix, c'est à 18h30. Vous avez l'habitude, l'exécutif enchaîne séminaires et réunions. On s'organise pour affronter un jeudi noir, le 5 décembre. On en débat. Et puis à 19h30, changer de vie, vous en rêvez ? Eux l'ont fait. Allez, on vous donne des clés avant le week-end. L'info qu'il vous faut, c'est votre grand journal du soir, jusqu'à 20h.
18h, bienvenue sur Europe 1.
I'm now in a position to confirm that it has been declared a terrorist incident.
L'histoire qui se répète à Londres, la police confirme qu'il s'agit bien d'un attentat terroriste. Un homme a blessé des passants à l'arme blanche sur le London Bridge, déjà théâtre d'un attentat il y a 2 ans.
Nous allons sur place dans quelques secondes, le suspect a été abattu par la police.
Le discours qui met le feu entre Paris et Ankara, Emmanuel Macron traité d'amateur par le président turc Erdogan, la France convoque l'ambassadeur.
Dans ce journal aussi, les cadres de la RATP iront conduire des RER le 5 décembre.
Et la pagaille un peu partout en France autour du Black Friday.
On ne demande pas aux gens d'aller vivre dans la forêt. C'est juste qu'il faut ralentir la consommation. C'est tout ce qu'on essaie un peu de faire passer comme message. On hallucine de la violence des gens.
Tension lorsque des militants ont tenté d'empêcher les clients d'accéder au magasin.
Nous vous racontons ce soir la guerre économique des droits du foot. Canal+, et Bein récupèrent la Ligue des Champions.
Et puis cette question, les nouvelles stars de la chanson française sont-ils au bord du burn-out ?
Il faut savoir aussi faire des pauses. C'est mon entourage un peu qui m'y contraint. Je crois que c'est bien de se reposer.
Ici Clara Luciani. Trop de concerts, ils sont plusieurs à envisager un break. La Bourse de Paris finit la semaine en léger recul, moins 0,13% à 5 905 points.
Et la tendance météo avec vous Marlène, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous. Une perturbation pluvieuse va traverser le pays d'ouest en est ce week-end. Sur des sols déjà gorgés d'eau dans le sud-est, on parle d'un nouvel épisode méditerranéen pour la journée dimanche. Des températures en baisse ce samedi, mais largement de saison.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
C'est donc bien une attaque terroriste qui s'est produite cet après-midi en plein cœur de Londres. Un homme armé d'un couteau a blessé plusieurs passants, certains grièvement. Johanna Chabaz, vous êtes sur place tout proche de ce London Bridge. Le suspect a donc été abattu par la police.
Oui, alors les circonstances restent encore assez floues. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, ce sont ce que nous apprennent les vidéos sur Internet, sur les réseaux sociaux. On peut y voir un homme sur le pont London Bridge. Il se fait attraper par un groupe d'hommes qui le plaquent au sol et qui le maintiennent là. Là, un passant récupère un couteau des mains de l'assaillant. On peut voir la très grande lame de l'arme. Et puis, les passants sont appelés à se disperser par la police qui a fini par encercler le groupe et ils finissent par tirer sur l'assaillant qui est resté au sol. Alors, l'homme semblait très dangereux. On avait l'impression qu'il portait une veste d'explosifs. Elle a depuis été dite comme factice par le chef du contre-terrorisme à Londres.
Je peux confirmer à l'heure qu'il est que l'engin attaché au corps du suspect était un engin explosif factice. La police continue de fouiller la zone pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres menaces. Je demande à toutes les personnes qui ont des informations, des images ou des photos de nous les envoyer directement sur notre site internet.
Alors ici à Londres, tout est bloqué, les stations de métro sont fermées, les rues aussi. Beaucoup de gens s'amassent devant les cordons de sécurité pour un peu essayer de comprendre, de regarder, de voir ce qui se passe. On peut distinguer aussi des policiers qui aident un peu les passants à se diriger dans tout ce qui est fermé. Beaucoup essaient de comprendre avec une impression déjà vue, un souvenir, celui de 2017 et de l'attaque terroriste qui avait fait 8 morts sur ce même pont.
Johanna Chabaz en direct de Londres pour Europe 1. On ne connaît pas donc de bilan précis ce soir, mais le maire de Londres indique qu'il y a des blessés graves parmi les victimes. Nous allons rester unis et déterminés. Ceux qui cherchent à nous attaquer ne réussiront jamais, dit donc Sadiq Khan, le maire de Londres, ce soir.
Et évidemment, on vous informe en direct au fur et à mesure que nous avons des nouveaux éléments sur ce dossier. C'est dans votre grand journal du soir.
La sécurité en question à Londres, alors que dans quelques jours, plusieurs chefs d'État y sont attendus pour le sommet de l'OTAN, Donald Trump notamment, sommet qui s'annonce extrêmement tendu.
Le ton est monté très fort d'ailleurs aujourd'hui entre la France et la Turquie. Emmanuel Macron, traité d'amateurs par le président turc Erdogan. Élysée dénonce ces insultes.
Oui, vous vous souvenez qu'après l'offensive turque contre les Kurdes, le président français dénonçait la mort cérébrale de l'OTAN. Eh bien, Recep Tayyip Erdogan lui a répondu sur un ton très éloigné de la diplomatie. Écoutez.
Je m'adresse au président français Emmanuel Macron à propos de ses dernières déclarations. Je lui redirai à l'OTAN, fais d'abord examiner ta propre mort cérébrale. Ce genre de déclaration ne sied qu'à ceux dans ton genre qui sont en état de mort cérébrale.
Bonsoir Adrien Beck.
Bonsoir.
Réaction immédiate de l'Élysée. La France convoque l'ambassadeur turc. Hein.
Oui, cela signifie que le représentant d'Ankara à Paris va se rendre au Quai d'Orsay pour se voir signifier les protestations officielles de la France face à ce qui n'est pas une déclaration mais des insultes. Ce sont les mots de l'Élysée. Réaction diplomatique de fermeté. Donc Emmanuel Macron, lui, se gardera bien de s'exprimer publiquement. Mais en privé, le président a réagi avec le recul nécessaire, nous dit un proche. Sous-entendu, le chef de l'État est habitué aux excès de son homologue. Alors sur le fond du dossier, Recep Erdogan et Emmanuel Macron vont avoir l'occasion de s'expliquer de visu, cette fois, dans 4 jours à Londres. Ils s'entretiendront mardi après-midi avec Angela Merkel et Boris Johnson, en marge justement du sommet de l'OTAN. Emmanuel Macron qui avait lancé, vous l'avez dit, un pavé dans la mare avec ses propos sur l'OTAN en état de mort cérébrale, attend des clarifications sur le fonctionnement de l'Alliance, particulièrement, nous précisons ce soir, de la part d'Ankara.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Il est 18h05, à la suite du journal sur Europe 1, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Comment éviter une paralysie totale du pays le 5 décembre? C'est jeudi prochain, le gouvernement multiplie les réunions et les séminaires aussi hein, pour tenter de préparer le terrain.
Avant une mobilisation qui s'annonce extrêmement forte, notamment dans les transports. Plusieurs ministres sont convoqués ce soir à Matignon pour ce qui est nommé réunion de calage, avant un séminaire de tout le gouvernement dimanche dans les transports. On s'organise, mode des camps, à la SNCF, à la RATP. C'est déjà le système D pour faire rouler le plus de trains possible.
Oui, exactement. Les deux entreprises vont avoir recours à certains de leurs cadres non grévistes pour conduire les trains et les RER, des cadres qui perçoivent d'ailleurs une rémunération plus élevée que leurs collègues parce qu'ils ont justement cette qualification supplémentaire. Ces agents suivent régulièrement des formations pour mettre à jour leurs compétences de conducteur. Impossible en revanche de savoir combien ils sont précisément. Ni la SNCF ni la RATP ne communiquent de chiffres. Cette pratique, vous savez, elle n'est pas nouvelle. À la RATP, par exemple, ça fait 10 ans que l'entreprise a recours à ce que certains qualifient de casseurs de grève. Ça a été le cas, par exemple, le 13 septembre dernier et ça a permis d'assurer un service minimum aux heures de pointe. C'est également l'objectif affiché pour les 5 et 6 décembre prochains. Mais il y a un élément supplémentaire cette fois-ci. On ne sait pas combien de temps ce mouvement va durer. Il ne faudrait donc pas que la SNCF et la RATP grillent trop vite leurs cartouches. Et enfin, sachez que la RATP et la SNCF seront en mesure de donner leurs prévisions de trafic dès mardi soir, soit 48 heures avant le début de la grève.
Mode des camps du service économie d'Europe 1 et le commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye a annoncé aujourd'hui même qu'il recevrait toutes les organisations syndicales d'ici à cette journée du 5 décembre. On en reparle avec les grandes voix à 18h30. On se dira évidemment que cette opération souplesse du côté de l'exécutif.
Et cela n'a rien à voir avec la grève, mais de nouveaux métros ont été commandés aujourd'hui. Commandes signées par la région Île-de-France et la RATP auprès d'Alstom et de Bombardier. 410 nouvelles rames. Les premières circuleront d'ici à 2026. Il y en a pour 658 millions d'euros.
Cela devait être le paradis des promos, sur le papier en tout cas, mais c'est un Black Friday très agité qui a eu lieu aujourd'hui un peu partout en France.
Avec, comme vous l'entendez, des actions menées par des militants écologistes un peu partout en France pour dénoncer cette journée qu'ils érigent en symbole de la surconsommation. Ici, des clients tentés, empêchés d'accéder au magasin dans le plus grand centre commercial d'Europe, à La Défense, où vous vous trouvez ce soir, Victor Delande, et où ces manifestants parviennent à faire fermer certaines boutiques.
Oui, un peu plus d'une centaine de jeunes activistes de Youth for Climate déambulent dans cet immense centre commercial à chaque fois qu'ils passent devant un magasin en criant leur slogan. Vous les entendez probablement derrière moi. La boutique baisse son rideau, une victoire pour ces manifestants, mais une incompréhension de la part des consommateurs qui se retrouvent comme Rita bloqués devant les grilles des commerces.
Je suis d'accord avec la cause qu'ils soutiennent, mais je pense qu'il y a des façons de le faire. Et être là à déranger les gens, à les pousser, à être violent, à user des mots déplacés, à déranger tout le monde, je pense vraiment que c'est pas quelque chose qui devrait se faire.
Une action menée conjointement par les activistes de Youth for Climate et ceux d'Extinction Rebellion. Clara fait partie d'Extinction Rebellion. Elle ne comprend pas l'hostilité des clients de ce centre commercial.
On ne demande pas aux gens d'aller vivre dans la forêt et d'aller couper du bois et de construire des cabanes. C'est juste qu'il faut ralentir la consommation. C'est tout ce qu'on essaie un peu de faire passer comme message. C'est pas évident, les gens sont très en colère. On hallucine de la violence des gens.
Cette action devrait continuer jusqu'à la fermeture du centre commercial ce soir. Et pour le moment, les forces de l'ordre restent positionnées à l'extérieur du bâtiment et laissent ces militants crier leur colère tant qu'il n'y a pas de débordement.
Victor Delorme en direct de La Défense pour Europe 1. Un peu plus tôt dans la journée, des militants écologistes ont aussi tenté de bloquer des entrepôts du géant Amazon près de Lyon ou encore à Douai, son siège aussi près de Paris. Manifestation également à Marseille ou encore à Rennes.
Et c'est même un mouvement mondial en fait qui a eu lieu de Tokyo jusqu'en Allemagne. On va en reparler, on va poser toutes ces questions à mon invité à 18h20. Il va s'installer dans ce studio, Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Est-ce que c'est la bonne méthode comme ça de bousculer les consommateurs? Il répondra entre autres à cette question.
Le cardinal Barbarin sera fixé le 30 janvier prochain. Son procès en appel s'est achevé aujourd'hui pour la non-dénonciation d'agressions sexuelles. Comme en première instance, l'avocat général n'a pas requis de condamnation. Et puis la perspective d'un gigantesque procès aux assises se dessine pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Le parquet national antiterroriste a requis aujourd'hui le renvoi de 20 personnes, dont Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos. Procès qui devrait avoir lieu en 2021.
Europe 1.
Vous écoutez votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy.
Une décision qui pourrait bouleverser le paysage audiovisuel à suivre dans votre journal de 18h. Eh bien, les gagnants et les perdants de la guerre des droits du foot, Canal+ et beIN Sport, ont mis un coup à RMC Sport.
Et puis cette question, les nouvelles stars de la chanson française sont-elles au bord du burn-out? Un rythme effréné des concerts au point que certains veulent raccrocher.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1.
18h12, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Ah, si vous aimez le foot, hein, il va falloir encore changer vos abonnements aux chaînes payantes. À partir de 2021, la Ligue des Champions change de diffuseur.
En coulisses, c'est une guerre économique acharnée que ces droits du foot. C'est pour ça qu'on voulait s'y arrêter ce soir avec cette surenchère. 375 millions d'euros déboursés par Canal+ et par beIN Sport. Bonsoir Christophe Lamarre.
Bonsoir.
Ils remportent donc ces droits de la Ligue des Champions. Pour eux, c'est une petite revanche.
Un retour à l'état initial, en somme. Entre 2015 et 2018, beIN Sports et Canal+ se partageaient les droits de la Ligue des Champions. À l'époque, le montant déboursé chaque saison était de 140 millions d'euros. Alors cette fois, Canal+ diffusera les deux plus belles affiches du mardi et du mercredi. beIN Sports aura le reste.
Et potentiellement, ça peut bouleverser le paysage audio, visuel.
Oui, bien sûr, mais sur le long audio aussi, pourquoi pas. Mais sur le long terme, d'abord parce que RMC Sport a encore les droits de la Ligue des Champions pour 2 ans. Ensuite, parce que Mediapro détient une grande partie des droits de la Ligue 1, ce qui suppose qu'il y aura des négociations en coulisses. Mais en bout de chaîne, c'est le téléspectateur qui modifiera le paysage. Faute de moyens, il pourrait bien se tourner vers le piratage, un phénomène en pleine expansion. Il représente aujourd'hui entre 10 et 20% de l'audience totale.
Oui, parce que sinon, il faut multiplier évidemment les abonnements pour pouvoir voir tous les matchs. Merci Christophe Lamarre du service des sports d'Europe 1. Le foot ce soir, c'est la Ligue 1, début de la 15e journée, Marseille-Brest, 20h45. Et puis demain, attention, on connaîtra les adversaires de l'équipe de France pour l'Euro 2020. Tirage au sort à 18h.
On va parler musique maintenant. Vous les voyez partout, en concert, en tournée, presque non-stop. Nos jeunes artistes français ne quittent plus la scène.
Tout est devenu flou.
Et certains comme Angèle, que vous entendez, ont connu un succès absolument fulgurant. Et en pleine crise du disque, bah évidemment, c'est sur scène que tout se joue à un rythme absolument effréné, au point que certains songent à raccrocher. Alors, ces nouvelles stars sont-elles au bord du burn-out? C'est la question qu'on se pose ce soir avec vous, Angèle Châtelier. Bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste musique d'Europe 1, parce que les exemples se multiplient.
Oui, il y a les rappeurs toulousains Big Flo et Oli qui veulent faire une pause dans leur carrière pour se reposer. Le rappeur Lompal aussi qui a déjà accumulé une centaine de concerts. Angèle s'est interrogée publiquement sur la suite. Et puis, on se souvient également de Stromae à bout de souffle après sa tournée marathon. Pour gagner leur vie, les artistes doivent maintenant enchaîner les dates. C'est aussi un bon moyen de se faire connaître. Donc, qu'ils soient connus ou non, les artistes multiplient les concerts. Je vous donne un exemple. La chanteuse Angèle, justement, elle était en concert presque un jour sur deux cette année. Jeanne Haddad, elle, c'est 200 dates depuis janvier. Quant à Clara Luciani, cette fatigue, elle la ressent.
Il faut savoir aussi faire des pauses. C'est mon entourage un peu qui m'y contraint parce que sinon moi je travaillerais tout le temps. Mais je crois que c'est bien de se reposer parce que c'est quand même physique. Ça fait 2 ans qu'on est en tournée, je fais 300 dates. C'est du sport, puis c'est être coupé totalement de sa vie sociale, de ses amis, de ses parents. Et puis aussi je crois que finalement les chansons s'écrivent plus facilement dans une phase aussi de solitude. On n'est jamais seul quand on est en tournée.
Oh, 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 t'es le rose à mes yeux.
Mais Angèle, pardon, mais c'est quand même pas une nouveauté que les artistes enchaînent comme ça les dates, les tournées.
Non, c'est vrai, mais c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Claude François, lui, à l'époque, au sommet de sa gloire, c'était 74 concerts par an, en moyenne. Et puis ces jeunes artistes, ils doivent en plus gérer leur image sur les réseaux sociaux au quotidien. Ça n'a l'air de rien, mais ça prend énormément de temps, et puis c'est une pression supplémentaire, sans parler des messages malveillants qu'ils y reçoivent. Je vous donne un dernier chiffre sur le secteur de la musique. Selon une récente enquête, 4 personnes sur 5 sont en souffrance dans le milieu de la musique.
L'enquête du 18h, signée Angèle Châtelier. Mais on aime les voir en concert, évidemment, tous ces artistes. Merci.
Merci beaucoup à tous les deux, Angèle Châtelier, Sébastien Krebs, retour de l'info, 18h30 avec vous.
N'adaptez plus vos pneus aux conditions climatiques. Ce sont vos pneus 4 saisons Hankook qui s'adaptent à la route. Hankook vous présente la météo.
Alors, ce mois de novembre, Nathalie Lévy se termine comme il a commencé, avec des pluies ni fortes ni faibles qui vont arriver demain matin par la Bretagne, la Loire-Atlantique, la Vendée, en s'accompagnant de vents sensibles, et puis elles vont gagner au fil des heures le Cotentin, le Poitou-Charentes et la Nouvelle-Aquitaine. Sur le reste du pays, ce sera du temps sec, souvent nuageux. On peut espérer quand même quelques belles éclaircies au nord de la Seine, du côté de la Méditerranée, sur le flanc est du pays, après dissipation de la grisaille matinale. À Paris aussi, mais plutôt l'après-midi. Retour des gelées entre Lille, Reims, Nancy et Strasbourg. Comptez 0 à moins 3 degrés au petit matin. Ailleurs, on sera généralement sous les 10 degrés, sauf du côté de la Côte Basque, Biarritz notamment avec 13. Et puis les températures maximales afficheront 5 degrés à Metz, 9 à Paris et Dijon, 12 à Brest et Clermont-Ferrand, 14 à Toulouse, 15 à 18 près de la Grande Bleue. J'attire quand même votre attention sur cette perturbation qui aura glissé vers l'est dimanche. Nouvel épisode méditerranéen en vue. On attend de fortes pluies. Attention, les sols sont saturés. Ce qui ne sera pas sans doute sans conséquence, Nathalie.
Europe 1.
Dans un instant, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Des associations en action contre Amazon et la surconsommation un peu partout en France aujourd'hui à l'occasion du Black Friday. Dans un instant, là, dans 3 minutes, mon invité, le directeur de Greenpeace France. Ces offensives, c'est bien le seul moyen? Il va nous répondre.
Vous écoutez votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. 18h20, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Des associations en guerre contre Amazon et la surconsommation, elles se mobilisent à l'occasion du Black Friday. Votre invité ce soir, Nathalie, Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France.
Bonsoir Jean-François Julliard.
Bonsoir.
Merci d'être à mon micro ce soir en direct. Alors vous étiez notamment ce matin avec attaque devant l'entrepôt Amazon à Clichy dans les Hauts-de-Seine précisément, mais il y a eu effectivement différentes actions un peu partout en France et même à l'étranger. Ces actions-là, comme ça, c'est la bonne méthode, véritablement. On a entendu tout à l'heure des consommateurs, ils disent bah, « on a été bousculés, on a été parfois insultés, véritablement, on nous culpabilise ». C'est comme ça qu'il faut agir ?
Alors, c'est la bonne méthode pour interpeller sur les dérives de l'hyperconsommation que représente aujourd'hui le Black Friday. Donc oui, si ça permet de créer un débat public, si ça permet de poser ce questionnement autour de cette frénésie de la consommation qui aujourd'hui est l'une des principales responsables de la crise climatique et environnementale que nous vivons, il faut dénoncer ça. Bien
mais
ce n'est
pas les consommateurs les responsables.
Non, ce n'est pas les consommateurs.
Alors,
qui sont les premiers responsables. On ne s'en prend pas aux consommateurs. On s'en est pris ce matin à Amazon et à ce que représente Amazon dans les multinationales de la consommation. Parce que Amazon aujourd'hui, c'est 15 milliards de produits vendus dans le monde. C'est autant de transports et donc d'émissions de gaz à effet de serre liées à ces transports. C'est autant de consommation d'énergie. Donc c'est tout ça. Mais en même temps, sans culpabiliser les consommateurs, il faut que les consommateurs entendent ce discours-là et entendent qu'aujourd'hui...
Quand même, c'est une entrave à la liberté de chacun. Ça s'appelle sinon ?
Mais aujourd'hui, on ne peut plus continuer à consommer, à hyper-consommer comme on l'a fait pendant
mais
des décennies.
Mais c'est pas de l'hyper-consommation aujourd'hui... quand les gens ils vont simplement faire leur cadeau de Noël, parce qu'évidemment, le Black Friday, il tombe juste avant Noël et qu'ils ont justement anticipé, ils ont fait leur shortlist parce qu'ils n'ont pas forcément des grosses bourses. Ce n'est pas de l'hyperconsommation, si ce n'est pas de la surconsommation.
D'accord, mais le Black Friday, ce n'est pas ça. Si c'était seulement ça, si c'était seulement l'occasion pour des gens d'acheter moins cher ce dont ils ont besoin, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, le Black Friday, c'est de l'hyperconsommation, c'est-à-dire c'est faire en sorte que des gens achètent ce dont ils n'ont pas besoin. Et aujourd'hui, encore une fois, on ne peut plus se le permettre. Ouais, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont tous les scientifiques qui nous interpellent sur le climat, encore les Nations Unies la semaine dernière. Nos modes de consommation doivent changer.
Mais attendez, Jean-François Gérard, quand on a comme ça des ouvriers, des livreurs, souvent des bas salaires, du coup, qui ne peuvent pas accéder à leur lieu de travail et donc qui sont obligés finalement de perdre une journée, qu'est-ce que vous leur dites à eux qui vont rentrer ce week-end et qui perdent cette journée de travail ?
On les a rencontrés, les livreurs, les salariés d'Amazon aujourd'hui. Ils comprennent cette situation. situation-là. Alors, bien sûr que ça les gêne dans leur travail, mais ils comprennent cette situation-là. Et puis, dans les dénonciations aujourd'hui d'Amazon, il y a l'impact environnemental, mais il y a aussi l'impact social. Un emploi créé sur Amazon, c'est deux emplois perdus dans d'autres commerces de proximité.
Ça, c'est Mounir Majoubi qui a livré son enquête la semaine prochaine. On l'a fait venir, mais il nous dit aussi, la semaine dernière. Mais moi, je me dis quand même, votre livre, pardonnez-moi, il est vendu sur Amazon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous demandez à votre maison d'édition, là, ce soir en direct sur Europe 1, de le retirer?
Mais mon livre, il est vendu par un distributeur. C'est pas moi qui ai choisi de le vendre sur Amazon.
Vous savez quand même, la maison d'édition, vous discutez avec elle.
Mais encore une fois, ce n'est pas tout le.
Non, est-ce que vous dites ce soir, on retire le livre.
Je peux dire, on retire le livre ce soir.
Et vous y engagez?
Mais bien sûr, je peux contacter ma maison d'édition pour en parler avec eux, si vous voulez. Mais c'est pas moi qui ai décidé ou les lieux de vente. Mais encore une fois, ce n'est pas toute la consommation, parce que vous essayez de me faire passer pour quelqu'un qui est anti-commerce, anti-consommation, anti-entreprise. Ce n'est pas ce discours-là. C'est juste que le Black Friday et Amazon sont aujourd'hui responsables d'une consommation qui nous entraîne dans le mur. Et ce n'est pas simplement que moi, je n'ai pas envie de consommer ou pas envie d'acheter chez Amazon. C'est juste qu'on ne peut plus se permettre ça aujourd'hui.
Donc, quand on bloque avec violence, parce qu'il y a eu des violences,
non-violent.
Les consommateurs
l'ont
dit, hein, ils ont été molestés, ils ont été insultés,
ce
ils ont été culpabilisés. Je vous assure, je vous ferai entendre l'extrait sonore dans un instant.
Il y a peut-être eu des dérapages, des débordements, mais tous les groupes aujourd'hui qui ont mené ces actions, que ce soit Youth for Climate, Extinction Rebellion, ATTAC, les Amis de la Terre ou Greenpeace, sont des organisations profondément non-violentes.
Mais pourquoi vous ne faites pas un référendum sur l'interdiction d'Amazon ou du Black Friday.
Mais on essaie de faire tout un tas de choses. Aujourd'hui, c'était une série d'actions. Il y a du plaidoyer qui se fait, c'est-à-dire on va essayer de rencontrer et on rencontre les dirigeants d'Amazon pour essayer de les convaincre aussi. On rencontre les décideurs politiques pour essayer de faire changer les choses. On ne fait pas que des actions comme celle-ci. Mais à un moment donné, ces actions, elles ont le mérite de créer un débat public sur ces sujets-là qui sont aujourd'hui d'intérêt général.
C'est pas du buzz, Jean-François
Gilliard. Mais c'est pas du buzz.
Il n'y a pas d'autre façon d'agir concrètement, sincèrement.
Il y a beaucoup d'autres façons d'agir, mais celle-ci est absolument nécessaire aujourd'hui si on veut aller plus loin que ça.
Donc vous dites les gens ne sont pas libres d'aller acheter au Black Friday, les alors gens. Que 90% quand même d'entre eux aujourd'hui ont économisé pour ça. D'ailleurs, pour 90% des gens, c'est vraiment une occasion, une stratégie d'achat. Et c'est même le reflet de la crise
pour
ces gens-là.
Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, encore une fois, le Black Friday, il sert à acheter des choses dont on n'a pas besoin pour une immense majorité des gens et dans une immense majorité des cas. Moi, je ne demande pas aux gens de ne pas acheter. Je leur demande d'acheter en conscience, en connaissance
mais
de cause.
Avez,
ensuite,
vous,
chacun est
vous
libre.
Vous avez des éléments concrets pour affirmer ce que vous dites?
Mais bien sûr, parce qu'on le sait dans tout ce qui a été écrit autour du Black Friday. Ce n'est pas une journée qui permet aux gens majoritairement d'acheter ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, on le voit bien, c'est une journée qui permet de vendre encore plus de téléphones portables.
Mais les empêcher,
encore plus
alors, admettons qu'il y ait des éléments concrets effectivement qui vont dans votre sens. Quoi qu'il en soit, les empêcher, c'est liberticide.
Mais on n'a empêché personne aujourd'hui, encore une
fois.
Alors, les sensibiliser. Moi, je préfère les sensibiliser parce qu'ensuite, chacun, et moi, je suis très attaché à la liberté individuelle, chacun fait ce qu'il veut, mais en connaissance de cause. Et aujourd'hui, l'impact environnemental du Black Friday, il n'est pas suffisamment connu. Aujourd'hui, Amazon, c'est des émissions de gaz à effet de serre qui sont équivalentes à celles d'un pays. Donc, ça veut dire qu'Amazon doit avoir une exigence environnementale qu'elle n'a pas aujourd'hui.
Est-ce
et c'est ça qu'on veut faire savoir
quand même,
aux consommateurs.
Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France, l'effet boomerang que vos actions, elles braquent au bout du compte les consommateurs au lieu de les encourager à consommer différemment, puisque c'est ce vers quoi vous allez. Hein.
Mais non, mais vous nous dites ça depuis Greenpeace, vous savez, ça fait 45 ans qu'on pratique la désobéissance civile. 45
oui, mais là,
ans
ils
qu'on
sont
nous
montés,
dit,
les consommateurs.
Mais non, les consommateurs, ils sont de plus en plus nombreux avec nous. Vous avez vu, aujourd'hui, on n'a jamais entendu parler autant de personnes opposées au Black Friday. C'est la première année qu'il y a autant d'opposition qui monte au Black Friday. Il n'y a jamais eu autant de gens en France qui ont envie de passer à l'action, y compris des actions
donc,
de désobéissance civile
prêt,
au nom du
vous
climat.
Donc vous resignez. À chaque fois comme ça, il y aura des grosses périodes de soldes ou de promotions, outre le Black Friday. Vous y retournez en nombre. S'il le faut, oui.
Des actions de désobéissance civile, elles vont se multiplier. Elles se sont multipliées ces derniers mois et elles vont continuer à s'amplifier et se multiplier. Et il y en aura d'autres, bien sûr.
Vous dites quand même Amazon pollution. Moi, je comprends, mais quand on achète des livres, on n'a du coup pas besoin de faire 2 ou 3 librairies en voiture. Du coup, on économise de l'énergie, on pollue moins.
Parce que Amazon, c'est des services de streaming vidéo qui sont extrêmement gourmands en énergie. Amazon, c'est des stockages de données qui sont extrêmement gourmands en énergie. On a demandé à Amazon de se fournir en énergie renouvelable. Amazon ne le fait pas et continue de s'alimenter en énergie, des énergies fossiles, charbon ou pétrole. Ouais. Donc aujourd'hui, Amazon ne peut plus se comporter comme si c'était une petite entreprise de quartier. Aujourd'hui, c'est une multinationale.
La consommation d'énergie, vous en parlez, les connexions Internet, les portables, les ordinateurs, vous avez renoncé à tout ça, vous ?
Mais non, mais si, est-ce qu'il
la
faut...
La consommation d'énergie, c'est ça, en grosse partie.
Mais arrêtez de me faire dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas qu'Amazon doit arrêter de consommer de l'énergie. Je dis qu'Amazon doit se fournir en énergie renouvelable. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. On a des demandes très concrètes pour Amazon pour qu'elle réduise son empreinte écologique. Amazon ne le fait pas, c'est ce qu'on leur demande aujourd'hui.
Jean-François Junière, une dernière question rapide. La COP25 qui commence à Madrid lundi. Emmanuel Macron aux abonnés absents. Seul Édouard Philippe ira pour l'ouverture. Que lui dites-vous au président Macron ce soir ?
On lui demande d'y aller parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une diplomatie climatique qui est en crise. Il n'y a plus aucun leader aujourd'hui sur cette planète pour tirer vers le haut les États et faire en sorte que les États fassent plus pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc si ce n'est pas l'Europe, si ce n'est pas la France, je ne sais pas qui va le faire. Et c'est très malheureux, très regrettable qu'Emmanuel Macron n'y aille pas.
Il n'ira pas parce qu'il y a le 5 décembre. Il n'ira pas parce qu'il y a les événements. Il y a eu les événements au Mali non plus aussi la semaine dernière.
Oui, mais il a dit que l'acte 2 de son quinquennat serait l'ambition écologique. On attend qu'il mette ça en œuvre très concrètement et ça passe par être présent à la principale enceinte de négociations internationales sur les accords climatiques. Donc s'il veut être cohérent avec ses discours et avec ses promesses, il doit aller à Madrid pour cette COP25.
Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France, merci d'être venu ce soir à mon micro sur Europe 1.
Et vous écoutez Nathalie Lévy sur Europe 1 à suivre Nathalie.
Dans un instant, le débat des grandes voix, la tension qui ne cesse de monter à quelques jours des grèves du 5 décembre. On en parle avec vous, vos réactions.
18h-20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. 18h32, la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Sébastien Crêpe, tes dernières infos.
Une attaque terroriste en plein cœur de Londres. Un homme armé d'un couteau a blessé plusieurs passants, certains grièvement. Il a été abattu par la police, et cela sur le London Bridge, qui avait déjà connu un attentat il y a 2 ans. Réunion de calage en cours à Matignon en vue du 5 décembre. Plusieurs ministres pour notamment organiser les services d'urgence en cas de blocage du pays jeudi. L'Elysée dénonce les insultes d'Erdogan. Dans un discours aujourd'hui, le président turc a traité Emmanuel Macron d'amateur et lui a intimé l'ordre d'examiner, je cite, sa propre mort cérébrale. La France convoque l'ambassadeur turc. Les proches de Marine Le Pen sauront s'ils sont condamnés le 24 avril prochain. C'est à cette date que le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement après le procès des kits de campagne du Front National. Canal+ et beIN Sport récupèrent les droits de diffusion de la Ligue des Champions à partir de 2021, et cela pour 375 millions d'euros, un record. À grand perdant, le diffuseur actuel RMC Sport et Mediapro.
Sébastien, de retour à 19h. Tendance météo du côté de ce week-end. Marlène, c'est la pluie.
Plutôt perturbé, oui, un temps perturbé, gris pluvieux accompagné de vent qui s'invite ce samedi matin sur une bonne partie de la Bretagne jusqu'en Vendée. C'est une perturbation qui va progresser en journée dans les terres jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, le Poitou, en remontant vers le Cotentin en Basse-Normandie. Et puis elle atteindra l'est du pays ce dimanche. Et là, il faudra vraiment surveiller les cumuls d'eau dans le sud-est. Les températures, comme prévu, elles baissent. Les gelées font même leur retour au petit matin entre Lille, Amiens, Reims, Nancy et Strasbourg. Il peut entre 0 et moins 3 degrés. Et puis au meilleur de la journée. Prévoyez 5 à Metz, 8 à Évreux, 9 à Auxerre, Paris, Laval, 10 à Cherbourg et 15 à 18 degrés autour de la Méditerranée.
Europe 1.
Dans un instant, votre débat des grandes voix.
Eh oui, la tension qui ne cesse de monter à quelques jours des grèves du 5 décembre, et on essaie de enchaîner séminaires, réunions gouvernementales pour désamorcer. On en parle avec les grandes voix, ils sont dans ce studio.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy et jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. 18h35, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec les grandes voix, Nathalie Lévy. Ce soir, Charles Villeneuve, Laetitia Krupa et Marie-Ève Malouin, éditorialiste politique.
Bienvenue les grandes voix dans ce studio. Bonsoir à tous les trois.
Bonjour.
Merci d'être là. L'exécutif qui s'organise pour affronter un jeudi noir le 5 décembre. Réunion sur séminaire qui enchaîne avec Conciliabule. On ne s'arrête plus jusqu'à dimanche aussi, avec dîner qui suivra. De plus en plus prudent, Charles Villeneuve, Édouard Philippe sur la réforme des retraites. C'est comme ça que vous le traduisez ?
Prudent, mais je crois qu'il a des convictions, des véritables convictions. Simplement, il est prudent parce que, sincèrement, c'est normal qu'il se mette avec le gouvernement en ordre de bataille, parce que ça n'est pas du luxe que d'expliquer d'abord aux membres du gouvernement à peu près ce qu'ils vont pouvoir dire. Puisque nous ne savons pas très bien, d'ailleurs, ce qui sera fait. Donc, au moins que le gouvernement dise des choses relativement claires.
Et cohérente. Donc pour ça, on envoie des éléments de langage. En veux-tu, en voilà. On leur livre là encore toute cette semaine. C'est vrai, il était temps. Parce que
trop tard.
Trop tard.
Bah oui, trop tard.
Bah, il y a une date le 5, il y a des annonces encore au mois de décembre, ils s'en gardent sous le pied.
Je pense que les éléments de langage sont diffusés depuis un moment, c'est pas là qu'on va régler les derniers, on va juste comprendre ce que Édouard Philippe veut dire quand il demande à tout le monde de faire preuve d'une grande détermination. Il a été très clair quand il a réuni ses troupes cette semaine, il a dit aux parlementaires de la majorité, montrer une très grande détermination, ce qui veut dire qu'ils ne plieront pas. Maintenant, alors peut-être ça va être vraiment des
petites choses
vraiment à la marge, voilà. Mais sinon, les éléments de langage sont là. On sait la position du gouvernement, elle est claire, la stratégie elle est claire. Ils disent que c'est une manifestation catégorielle.
C'est l'argument pour avoir l'opinion Marie-Ève Malouine.
C'était les éléments de langage. On a vu les ministres aller de plateau en plateau expliquer que c'était une grève catégorielle de privilégiés. Sauf qu'il y a un sondage qui est intervenu entre temps et qui dit que 2/3 des Français soutiennent ce mouvement, le comprennent, le justifient, même si ils trouvent qu'il faut faire cette réforme des retraites.
Il y a quand même un recul, hein, pardonnez-moi, 73% des Français, 53% d'entre eux qui approuvent la mobilisation, c'est quand même un recul de 11 points par rapport à l'enquête du 6 novembre. Pour le coup, c'est un sondage élab pour BFM TV en milieu de semaine. Il y a quand même une forme de souplesse de la part d'Edouard Philippe. Il est plus si rigide dans ses bottes.
Non, il est
sur
pas...
la date.
Sur la date, ça pourrait concerner des gens qui prennent leur retraite à 4 ou 5 ans ou 10 ans, mais c'est pas très clair dans l'affichage. On ne comprend toujours pas, et c'est une vieille règle en politique, c'est pourquoi on fait les choses. Et on n'a toujours pas compris pourquoi on faisait cette réforme. Est-ce qu'on la faisait parce qu'il fallait changer le système? C'est ce qu'on avait cru au départ. Ou est-ce qu'on l'a fait parce que, de toute façon, il n'y aura plus assez d'argent dans les caisses et que l'âge de la durée de vie augmente?
Ah oui.
Et donc, quand il y a trop de raisons en politique, c'est pas une bonne chose parce que finalement, trop de raisons tuent la raison.
L'argent dans les caisses, Charles Villeneuve, ça, c'est vraiment l'argument là que répète Édouard Philippe.
Oui, et moi, je sais que le Premier ministre entend très clairement que, de toute façon, il va falloir bouger l'âge de la retraite. Très clairement. Et d'ailleurs, il y a une démonstration qui lui a été faite, notamment par Geoffroy Roux de Bézieux.
Pour le MEDEF.
Voilà, la semaine dernière. Et qui lui disait, d'ailleurs, de la tête, il a prouvé, il y avait 4 travailleurs pour un retraité. Il y a aujourd'hui 1,7 travailleurs pour un retraité. Et vers 2025, il y en aura 1,4, si tant est donc qu'on puisse couper en 0,4.
C'est ça.
Mais enfin, ce sont les statistiques. Mais là, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'élément de langage très clair. C'est dans une botte, on a le paramétrique, et dans une autre botte, on a le systémique.
Il faut rajouter l'âge pivot.
Je pense que
aussi,
la réunion de calage va au moins permettre d'expliquer, si on leur pose la question, ce qu'est le paramétrique, ce qu'est le systémique.
C'est ça.
Mais en même temps, tout ça, c'est très bien, mais ça ne tient finalement la volonté des uns ou des autres qu'à une seule chose. C'est l'ampleur ou pas
de la mobilisation
de la manifestation du 5.
Oui, mais de toute façon, Jean-Paul Delevoye a dit qu'il avait des réunions jusqu'au 8-9 décembre et que c'est dans la foulée que le Premier ministre viendrait devant les Français annoncer le projet avant début 2020, de le proposer aux parlementaires.
Mais vous êtes sûr que c'est une parole d'évangile, la parole de Delevoye?
Ah, la parole de Delevoye, oui. Bah écoutez, oui, parce que je crois que c'est un agenda qui a été validé par le Premier ministre, par Matignon et donc par Emmanuel Macron, on imagine bien.
Bon.
Donc
en tout cas, voilà, on a quelques dates, effectivement. On sait que Jean-Paul Delevoye, il continue les concertations les 9 et 10 décembre, donc encore après la mobilisation. On verra s'il est toujours en plein dedans d'ailleurs. Et puis les annonces, notamment sur le calendrier, normalement avant Noël. Ah, on s'en parle dans un instant.
La suite du débat des grandes voix avec Nathalie Lévy, c'est donc dans un instant. Et on attend vos réactions au 39-21, le standard d'Europe 1, ainsi que sur Twitter avec le hashtag Europe 1. 18h42, la suite du débat des grandes voix dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Avec vous, Nathalie Lévy, ce soir, Charles Villeneuve, Laetitia Krupa et Marie-Ève Malouine.
Et oui, nos grandes voix dans ce studio le vendredi aussi, parce qu'ils étaient pas moins de 9 ministres autour de la table aujourd'hui. Christophe Castaner pour l'Intérieur, Agnès Buzyn, Muriel Pénicaud pour le Travail. Une nouvelle réunion qui se tenait à Matignon pour limiter l'impact de la grève sur les Français le 5 décembre. On voit bien qu'on s'organise tous azimuts pour essayer de désamorcer, pour affronter cette date. Et nos auditeurs, évidemment, s'emparent aussi du sujet. Bonsoir Rémi, vous nous appelé depuis les Hautes-Alpes. Bienvenue.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Comment vous voyez les choses, vous?
Comment je vois les choses? J'ai l'impression que le gouvernement a déjà annoncé tout ce qu'il était prêt à lâcher avant même que le bras de fer commence, ce qui est un petit peu bizarre pour commencer un bras de fer avant une réforme de cette importance. Et la question que je me posais, c'est de savoir, étant donné tout ce que le gouvernement a dit qu'il était prêt à lâcher, notamment sur ce qu'ils appellent la clause du grand-père, d'affaires de mariés à partir de ceux qui sont nés en 63, puis en 67, puis en 70, d'une part ça, d'autre part un institut qui a estimé combien coûterait à l'État le fait d'aligner le régime de retraite des fonctionnaires sur celui du privé dans le cadre de cette réforme, ça coûterait par an à l'État 13 milliards d'euros. Donc est-ce que le gouvernement a pas un petit peu mis la charrue avant les bœufs en annonçant déjà ce sur quoi il était prêt à lâcher avant même la manifestation du 5 décembre?
Alors, c'est intéressant comme question. Merci Rémi. Charles Villeneuve, Marie-Ève Malouine, Laetitia Krupa, par exemple?
Non, mais je crois que la clause de sauvegarde
du grand-père
elle est écartée. Il n'y a, oui, a plus d'hésitation là-dessus.
C'était peut-être un petit ballon d'essai. Hein, qu'est-ce que vous en pensez?
Non,
vous,
moi, je sais que pour les ballons d'essai, vous en collectionnez, en général, vous en jetez pas mal.
Sympa, là.
Mais non, moi, je crois qu'il y a... Il serait admis un éventuel décalage de l'entrée, justement, de la génération de 63. Je crois que ce ne seraient pas les premiers à rentrer, semble-t-il.
Ce serait 68 ou 73,
voilà,
maintenant.
Donc, il y a surtout ça, quoi.
Mais
cela étant, ils reviennent vers... Enfin, il m'a semblé, des discussions qu'on a pu avoir et que vous avez peut-être pu avoir avec les participants au fameux dîner de l'Élysée, et puis avec la prolongation ensuite de discussions entre eux, qu'aussi ils reviennent vers l'universalité.
Oui, mais la question que pose Rémi, c'est de savoir s'il fallait lâcher ça avant ou après. En gros, est-ce que selon la tradition, il reste du grain à moudre pour après le mouvement social? Oui, il y a toujours des possibilités. On peut reporter.
Ils ont quand même un objectif,
de toute façon, ils veulent faire cette réforme.
L'ampleur de la manif en tout ça.
Des réformes qui soient tellement
reportées. Et donc à partir de là, lâchant un petit peu, parce que ce qui est intéressant, que d'après les prévisions officielles, c'est que ce ne sera ni mai 68. Ni 95.
Qu'est-ce qu'on va vous savoir alors?
Non, mais
Charles,
je dis les prévisions officielles, c'est pas Villeneuve qui parle.
Oui, mais c'est les prévisions officielles.
Charles, je vois pas pourquoi elles sont plus fortes.
Ils sont pas fébriles.
Non, mais je veux dire prévisions officielles, si vous voulez, que la direction de ce qui est l'équivalent de la direction des renseignements généraux a des considérations. En général, ils sont pas trop mauvais.
Plutôt renseigné,
c'est vrai.
Mais ça reste quand même la boule de cristal de savoir comment le mouvement social va évoluer.
La boule de cristal se situe sur le privé. Est-ce que le privé va venir nombreux ou pas?
C'est 95.
C'est pour ça que Marie-Ève Malouine, Laetitia Krupa, quand on voit comme il parle à la CFDT, principal soutien de la réforme et celle qui n'appelle pas à la grève pour l'instant, même si la Fédération des cheminots elle a déposé, son préavis pour le 5, il s'assouplit quand il leur parle, il leur donne des gages, il donne aussi des gages à la CFTC quand il dit que les droits familiaux ne figurent pas dans les droits acquis et là il va aussi là-dessus, il donne des gages aussi à l'UNSA, il est attentif aux professions libérales, il entend tout le monde et il est prêt à donner des gages à tout le monde.
Oui, mais là je crois qu'il y a un vrai problème politique qui est du savoir-faire. Le premier gage qui a été donné à la CFDT, c'était l'âge pivot, puisque c'était la mesure centrale de toute cette réforme. Tout le monde avait compris que ce n'était pas un âge officiel de départ, mais quand même qu'on allongeait un petit peu, il y avait la possibilité d'allonger la durée, et la CFDT n'en voulait pas. Et Emmanuel Macron a donné ça à la fin de l'été, sans vraiment y mettre les formes, et sans que ce soit perçu comme une grande victoire de la CFDT. Au contraire, le gouvernement l'a utilisé pour dire, voyez, la CFDT, ils sont avec nous. Et dans la politique et dans la gestion des syndicats, il faut aussi leur donner des victoires qui puissent être interprétées comme des choses qui ont été obtenues et qui permettent de relâcher.
Non, mais surtout, il faut qu'ils les affichent.
Oui, c'est ça. Laetitia,
il a coupé l'herbe sous les pieds de Laurent Berger, de la CFDT, à la fin de l'été, sur l'âge pivot.
Mais peut-être que la bascule ne se fera pas sur les syndicats, parce que dans le sondage que vous avez cité, Marie-Ève, il y a un chiffre qui est très intéressant, il me semble. Une minorité, entre 10 et 15% des Français, pensent que l'action syndicale permettra vraiment de les aider dans leur métier. 10 à 15% des Français, on a complètement décroché, on a complètement oublié que les syndicats aujourd'hui, leur légitimité, leur crédibilité est complètement foulée
au pied. Malmenée, évidemment.
Donc, est-ce que, oui, dans ce bras de fer qui s'annonce, bien sûr qu'on les entend, bien sûr que les deux acteurs, on est d'accord, si on grossit le trait, c'est syndicats versus l'exécutif, mais c'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'on ne sait pas comment le mouvement va perdurer, comment il va se transformer.
Alors, en attendant, l'exécutif se mobilise. On en reparle dans un instant. Restez avec nous, les Grandes Voix de retour.
Oui, pour la troisième et dernière partie des Grandes Voix, on attend toujours vos réactions au 3921. C'est le standard d'Europe 1. 18h50, votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec la troisième et dernière partie du débat des grandes voix. Avec vous, Nathalie Lévy ce soir, Charles Villeneuve, Laetitia Krupa, Marie-Ève Malouin et bien sûr toutes vos réactions au 39-21.
Cinq jours avant la grève nationale et interprofessionnelle contre cette réforme des retraites. Et on enchaîne réunion, etc. à Matignon, jusqu'à dimanche soir d'ailleurs, avec le dîner qui suivra. On va prendre un auditeur, Alain, qui nous appelle du 78. Et après, j'aimerais bien que vous me parliez d'un mot, peut-être de la répartition des rôles, Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Alain, bonsoir.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir. Bonsoir. Dites-nous tout.
Alors, moi, je voudrais poser la question suivante. Est-ce que tout le monde est très focalisé sur le 5 décembre? Est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce que ce sera 95, etc., etc. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu qu'il y a 2 ans à peu près, le gouvernement, enfin d'abord le président, puis le Parlement, a reçu quand même une majorité de voix, de millions de voix, de gens qui ont voté en faveur d'une certaine politique. Et j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu cette majorité silencieuse, parce que ce n'est pas forcément les gens qui sont dans la rue. Et donc le gouvernement doit quand même pouvoir mener cette politique. Je voudrais savoir un petit peu si on n'est pas en train de perdre l'objectif principal pour se focaliser sur les conséquences éventuelles du 5 décembre.
Alors, les grandes voix... Marie-Ève Malouin.
Oui, Marie-Ève Malouin. Mais vous avez tout à fait raison. C'est vrai que le président de la République et sa majorité derrière, qui a suivi, qui est assez importante, ont été élus sur un projet avec notamment cette réforme qui était tout à fait annoncée. Sauf que la politique, c'est pas de dire voilà, j'ai été élu et je fais tout ce que je veux. Il y a un débat et puis il y a la façon de l'expliquer et de le faire admettre par tout le pays. C'est bien ça le problème, c'est que le président de la République, il préside tout le pays et pas simplement les gens qui l'ont élu. Parce qu'en plus, parmi les gens qui l'ont élu, il y a certains qui avaient voté Emmanuel Macron pour certaines dispositions, pas forcément pour d'autres, dont qui ont voté pour lui parce qu'il était quand même au second tour face à Marine Le Pen. Et donc, il doit gérer cet ensemble. Mais cette réforme des retraites, on est là face à un problème, surtout de méthode. Sur le fond, les gens disent, la réforme, il faut la faire, tout le monde en est bien conscient. Et là, c'est la façon de la faire qui fait que plus le temps passe, moins l'adhésion se crée. Et c'est ça la difficulté. Et la question, avant ou après le 5 décembre, est-ce qu'il est possible de réexpliquer correctement cette réforme ?
Vous vous rendez compte, après le 5 décembre, réexpliquer, on a l'impression qu'on marche un peu quand même sur la tête.
Oui, mais là, plus ça va, moins on la comprend. C'est ça qui est irrationnel.
Mais il y a aussi un certain opportunisme dans les partis d'opposition de se saisir de ce mouvement pour transformer la manifestation anti-réforme retraite, parce qu'on ne la comprend pas très bien, vers une mobilisation anti-Macron. Un dégagisme.
C'est ce que je disais.
Voilà.
C'est...
Quand on regarde dans les partis, je suis désolée, les taux les plus forts de soutien au mouvement, on est parfois dans le RN, les FIPS, on frôle les 80%.
C'est la gauche. C'est la gauche qui défend aussi les cheminots, voilà. Les services publics, alors qu'elle est pas sur
la gauche. La gauche, attention, le PS aujourd'hui c'est une portion congrue, hein, donc malheureusement
la
gauche.
Non, mais dans la question de notre ami, de l'auditeur. Et il y a aussi un élément, si vous voulez, un facteur dont il faut tenir compte, c'est que la masse de manœuvre du président de la République, c'est-à-dire sa majorité au Parlement, joue-t-elle le rôle de relais pédagogique suffisant, en profondeur notamment, dans sa représentation parlementaire ? Or, quand même, il y a un certain nombre de nouveaux, de néophytes. Est-ce que finalement, ils ont une force de pénétration pédagogique au niveau des esprits publics dans les départements, dans les circonscriptions ? Alors évidemment, moi je lis beaucoup, comme nous tous, pas mal de papiers qui disent qu'il y a un amateurisme ambiant et général quand même assez important. Bon, cela étant, le président de la République lui-même a varié. Tout à l'heure, on rappelait qu'en rentrant de l'été, il avait abandonné l'âge pivot, alors que c'était quand même une des structures principales de la réforme. Ça a commencé à inquiéter, ou en tout cas à dérouter. Et puis, au fur et à mesure, on a sorti la clause
du grand-père,
etc. Alors là, évidemment, pas mal de gens se demandaient ce que ça voulait dire. D'ailleurs, chaque journaliste, et notamment Nathalie Lévy, est obligée à chaque fois de rappeler ce que c'est la clause du grand-père, parce qu'on l'oublie assez souvent.
On le dit, Charles, c'est voilà, repousser de 10 à 15 ans de l'âge de la retraite au lieu de 5 ans.
Vrai
qu'il faut réexpliquer, vous avez raison.
Et donc, en permanence, si vous voulez, toutes les semaines, depuis à peu près un mois et demi, on a des variations, pas de température, mais de discours sur cette réforme. D'où, si vous voulez, une certaine inquiétude. Maintenant, Il y a aussi un autre élément dans ces manifestations du 5 décembre qu'il ne faut pas négliger. Et d'ailleurs, beaucoup dans les syndicats, dans ceux qui appellent à la manifestation, s'inquiètent de cet élément important. C'est l'infiltration de la violence. Et ça, si vous voulez, aussi bien au niveau du patronat qu'au niveau des autres syndicats qui participent, ils sont assez inquiets parce qu'aujourd'hui, les services d'ordre des syndicats ne sont plus aussi difficiles à endiguer qu'ils l'étaient auparavant, notamment celui de la CGT. Et donc, c'est un rendez-vous aussi pour ces gens-là.
Et rendez-vous ça, test a donc à plein d'égards, effectivement.
Et donc, ce que vous dites, c'est que ça viendrait brouiller le message des manifestants.
Ça peut brouiller. Tout dépend de toute façon de la vigueur de la réaction, notamment du service d'ordre. Parce que je trouve que cette vigueur est assez atténuée, moi, beaucoup trop.
Qu'est-ce que vous entendez par là ? Volontairement atténuée ?
Je trouve qu'ils ne réagissent pas suffisamment.
Volontairement,
je ne crois pas. Je crois qu'après tous les procès qu'on a pu leur faire, on a enlevé, vous l'avez vu maintenant, l'utilisation du LBO, c'est terminé. Et donc, il y a pas mal de policiers qui disent, nous, on est au bout du rouleau, on en a marre. De toute façon, maintenant, de plus en plus, on risque d'être traduction. Parce que quand vous êtes assailli à coups de barre de fer...
Non, mais... Allez, on va s'arrêter, parce que sinon je vous laisse les clés.
Mais je suis d'accord.
Alors allez-y, je m'en vais. Je file, salut à tous. On se retrouve dans un instant avec Sébastien Krebs et Charles Villeneuve pour le journal de 19h. Et on va filer, bien sûr, voir les événements très sérieusement à Londres avec cette attaque qualifiée de terroriste. Plusieurs blessés, des graves.
Vous écoutez Nathalie Lévy dans votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h, vous écoutez Nathalie Lévy.
Avec votre journal dans une seconde, Sébastien Krebs, on va vous donner le programme à vous d'avoir les auditeurs. 19h10, l'invité politique, la secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuel Wargon. 19h20, demain en France, demain dans le monde. Et 19h30, si on changeait de vie, allez, on file, on taille la route et on se trouve un métier plus concret, différent, qui nous rapproche de la nature, par exemple. En tout cas, il y a des témoignages, vous verrez, et des vrais conseils. 19h45, les bons plans sortis au week-end à ne pas manquer. Et vous, au 39-21.
Et mais aussi sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. Votre grand journal du soir, c'est donc jusqu'à 20h avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Il est pile 19h.
Le terrorisme est toujours un acte lâche. Nous resterons unis et résolus à faire face à la terreur.
Le maire de Londres confirme que l'attaque au couteau a fait des blessés graves. Nous retournons près du London Bridge pour un point en direct dans quelques secondes sur cette attaque terroriste.
Le cardinal Barbarin dit s'en remettre à la décision de la justice. La cour d'appel rendra son jugement le 30 janvier.
Un Black Friday très perturbé partout en France. Nombreuses actions des militants écologistes. Les commerçants en ont-ils profité malgré tout ? Nous irons à Strasbourg.
Et puis Martine Aubry qui veut rempiler à Lille.
J'y vais pas non plus avec l'idée la reine-mère arrive et elle pense qu'elle va être élue dans un fauteuil, c'est pas mon genre.
Elle affrontera sa directrice de cabinet qui, elle, a pris désormais l'étiquette LREM.
Et la tendance météo pour ce week-end avec vous, Marlène.
Oui, la pluie arrive par le nord-ouest demain matin avant d'atteindre en cours de journée une zone allant du Cotentin au Pays Basque, donc c'est toute la façade atlantique en passant par le Poitou et ailleurs, ça va rester sec et comme prévu, on va perdre quelques degrés.
Europe 1. Écoutez,
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
London Bridge, même lieu qu'il y a deux ans lorsqu'une camionnette folle avait fauché des passants et que des terroristes avaient poignardé des Londoniens en plein cœur de Londres cet après-midi. L'histoire s'est répétée. Une attaque au couteau, plusieurs blessés, le suspect abattu. Nous sommes sur place avec vous, Johanna Chabas. L'enquête commence. Le quartier est bouclé ce soir.
Oui, le pont bien sûr, mais aussi les rues et les stations de métro aux alentours sont toutes fermées. Énormément de passants s'amassent devant les cordons de sécurité, sortent leurs téléphones pour filmer ou regarder les informations. Ils essayent de comprendre ce qui s'est passé. Les circonstances de l'attaque sont toujours floues à cette heure-ci. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent la fin de cet acte. Un groupe de passants plaque un homme au sol et le maintient sur le trottoir. Une personne réussit alors à récupérer le couteau des mains de l'assaillant. Un couteau avec une très longue lame. La police finit par encercler le groupe, disperse les passants et un officier tire sur l'assaillant resté au sol. La police a depuis confirmé que c'était bien une attaque terroriste et que l'homme avait sur lui des explosifs factices. Le chef du contre-terrorisme britannique a demandé aux Anglais d'éviter la zone et de rester vigilants. Mais difficile pour les Londoniens devant moi de partir. Tous ont en tête le souvenir de 2017 où 8 personnes sont mortes dans une attaque terroriste sur ce même pont.
Johanna Chabas en direct de Londres et ce soir le Premier ministre Boris Johnson annonce qu'il suspend sa campagne électorale. Les élections britanniques sont prévues dans 2 semaines.
Le procès du cardinal Barbarin s'est achevé aujourd'hui. La cour d'appel de Lyon rendra son jugement le 30 janvier.
On saura alors si la condamnation de l'archevêque à 6 mois de prison avec sursis est confirmée pour non-dénonciation des abus sexuels du père Prénat. Comme en première instance, l'avocat général n'a requis aucune peine aujourd'hui. Et le cardinal Jean-Luc Boujon est ressorti de la salle d'audience en larmes.
Oui, c'est le visage d'un homme bouleversé qui est apparu à la sortie de la salle d'audience, que le cardinal, pour une fois, n'avait pas choisi de quitter par une porte dérobée. Visiblement, il voulait attendre la fin complète des débats pour prononcer quelques mots, les seuls depuis le début de ce procès en appel.
Je m'en remets à la décision de la justice, donc nous la connaîtrons à la fin du mois de janvier. Et je vais dire aux victimes que je pense que à elles.
Voilà une prise de parole très brève qui n'a pas beaucoup touché les victimes du père Prénat, qui depuis hier dénonce un cardinal froid et plus combatif encore à la barre qu'il y a 10 mois lors du premier procès. C'est vrai que Philippe Barbarin n'a pas ménagé ses efforts et ses explications pour montrer qu'il avait fait le maximum d'abord pour écarter le père Prénat, puis pour aider les victimes à saisir la justice. C'est aussi d'ailleurs ce qu'a expliqué l'avocat général qui n'a demandé aucune condamnation contre l'archevêque de Lyon. Il a estimé que celui-ci n'avait en rien freiné le travail de la justice et que malgré la douleur immense des victimes, la justice n'était pas là pour rendre des décisions symboliques, d'où la déception de l'une des victimes du père Prénat, Pierre-Emmanuel Germain-Thiel.
J'ai un peu l'impression d'avoir entendu comme ce qu'a dit la procureure en première instance, c'est-à-dire, il n'y a pas d'infraction, c'est une interprétation fantasque du droit, il ne devrait pas y avoir de poursuite pour cette personne, donc j'étais un peu atterré, mais bon, on verra ce que les juges décideront.
Effectivement, pour la décision finale de la cour d'appel, il faudra attendre le 30 janvier, après donc le procès du père Prénat, qui se déroulera 2 semaines plus tôt devant le tribunal correctionnel de Lyon.
Jean-Luc Boujon en ligne de la cour d'assises de Lyon. Nous vous parlions de ce scandale à la faculté de médecine Paris-Descartes, les corps donnés à la science conservés dans des conditions d'hygiène indignes. Ce soir, le parquet de Paris ouvre une enquête judiciaire pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre.
Jamais une journée de promotion dans les magasins n'avait déclenché un tel tollé. Le Black Friday, aujourd'hui, a été très perturbé un peu partout en France.
Des clients empêchés d'accéder aux magasins dans le plus grand centre commercial d'Europe à Paris La Défense. Le géant Amazon, visé par des tentatives de blocage devant ses entrepôts près de Lyon, à Douai, au bas de son siège, à Paris également. Manifestation également à Marseille. Des militants écologistes qui voulaient dénoncer un symbole de la surconsommation. Arthur Mbaché, il y a eu aussi des actions chez vous à Strasbourg.
Et ils ont frappé ici aussi les anti-Black Friday avec une arme très efficace pour empêcher leurs concitoyens de vendre et d'acheter ce vendredi. Des militants ont mis la nuit dernière de la colle forte, du silicone pour être précis, dans la serrure d'une quarantaine de boutiques du centre-ville de Strasbourg comme celle d'Elsa.
Je suis arrivée, j'ai essayé d'ouvrir la porte, effectivement elle ne s'ouvrait pas, donc voilà, parce qu'on nous avait mis du silicone dans la serrure.
Et la clé
Elle rentrait pas. J'ai appelé ma direction qui m'a envoyé un serrurier.
Vous avez ouvert à quelle heure ?
À 14h au lieu de 10h. Les gens qui n'ont pas envie de consommer, bah, qui restent chez eux et qui ne consomment pas, mais qui n'empêchent pas les gens de travailler et qui n'empêchent pas les autres de consommer. Chacun ses opinions, mais on respecte et en plus on ne fait pas des dégâts.
Une dizaine de serruriers strasbourgeois a passé la journée à ouvrir ces boutiques.
S'ils avaient mis de la colle, super glue ou n'importe, on aurait pu y insérer la clé, mais comme c'est du silicone, on ne peut pas y insérer la clé.
Vous avez dû casser la porte en somme.
Casser, endommager le montant de porte, oui.
L'enjeu maintenant pour les magasins, ça va être de se faire rembourser le manque à gagner par les assurances. Les gens des boutiques pas vandalisées par les anti-Black Friday parlent tous ce soir du joli succès commercial de cette journée.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 à Strasbourg. Plusieurs ministres réunis à Matignon ce soir, réunion de calage en vue de la journée de mobilisation du 5 décembre. Il s'agit notamment d'organiser les services d'urgence en cas de blocage.
On retient aussi ce soir ce discours du président turc Erdogan qui remet le feu aux poudres entre Paris et Ankara.
La France convoque ce soir l'ambassadeur turc. L'Élysée dénonce les insultes du président Erdogan qui, dans un discours, a notamment traité Emmanuel Macron d'amateur.
Et on va y revenir avec Didier François dans une douzaine de minutes. Martine Aubry qui veut rempiler la maire de Lille a lancé sa candidature pour un 4e mandat.
Elle fera face à l'ancien ministre Marc-Philippe Daubresse, qui est le candidat de la droite. Mais ce qu'on retient surtout, Lionel Gougelot, vous êtes à Lille, c'est ce face-à-face assez incongru qui va l'opposer à son ancienne directrice de cabinet, elle aussi candidate, mais avec l'étiquette désormais La République en marche.
Ouais, effectivement, Violette Spielboot a travaillé 5 ans auprès de Martine Aubry entre 2008 et 2013. Et son étiquette République en marche, c'est un peu la cape rouge du torero agité devant, pardonnez-moi la comparaison, le taureau Martine Aubry, qui d'ailleurs n'a pas pu s'empêcher dans ses premières déclarations aujourd'hui de dénoncer une France sous tension du fait de la politique d'Emmanuel Macron. Ce qui fait dire à Violette Spielboot que la maire de Lille est en fait candidate par dépit.
C'est pour ça que j'estime que ce combat est là pour de mauvaises raisons. Martine Aubry, elle a toujours été anti-gouvernement, anti-Sarkozy, anti-Hollande, maintenant anti-Macron. Et le résultat, c'est quoi? C'est une ville qui est isolée, une métropole qui est isolée, qui perd ses chances.
Martine Aubry avait annoncé qu'elle passerait la main après 3 mandats. Eh bien, la voilà repartie pour un 4e, faute d'héritier pour reprendre le flambeau socialiste sous le beffroi, mais avec une détermination intacte, assure-t-elle.
Ils verront si je suis dans le dépit ou si j'ai de l'énergie. Non, vous savez, franchement, y aller en traînant les pieds, non. J'y vais pas non plus avec l'idée la reine-mère arrive et elle pense qu'elle va être élue dans un fauteuil. C'est pas mon genre. J'y vais comme à chaque fois que j'ai porté un combat de fond. Voilà. Et c'est pas contre eux, c'est avec les Lillois que je veux le réussir.
Alors il se murmure ici que Marc-Philippe Daubresse, le candidat de la droite, pourrait s'allier à La République En Marche en vue d'un deuxième tour. Les Verts, la France Insoumise et le Rassemblement National viendront aussi compliquer le jeu pour une élection qui sera sans doute la plus difficile pour Martine Aubry.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 à Lille. Le foot et la guerre des diffuseurs remportée par Canal+ et beIN Sport. Ils récupèrent les droits de diffusion de la Ligue des Champions à partir de 2021 pour 375 millions d'euros. Un record ce soir, début de la 15e journée de Ligue 1. Marseille-Brest, 20h45. Et puis demain, on va suivre ça. On connaîtra les adversaires de l'équipe de France pour l'Euro 2020. Tirage au sort à 18h. On sait déjà que la France aura forcément un gros morceau dans son groupe. Soit l'Italie, soit l'Angleterre, soit l'Espagne, soit l'Allemagne. Et en plus, potentiellement, le Portugal, champion d'Europe en titre.
Et ces 18h, rencontres, ces rencontres, ce sera en juin prochain.
Voilà.
Merci Sébastien.
À tout à l'heure.
19h30, vous serez là, dans ce studio avec de nouvelles infos. Marlène nous dit que le week-end, il n'est pas terrible du tout.
Hein. Bah oui, alors que les dernières averses d'aujourd'hui s'échappent hors de nos frontières, je les vois là. Eh bien, une nouvelle perturbation pluvieuse pointe le bout de son nez. Progressivement, on va la retrouver ce samedi, demain matin, donc à l'ouest, et même dans la journée, hein, à l'ouest d'une ligne allant de Caen à Pau, en passant par Chartres et Agen. Et le vent va se renforcer sous la pluie. Sur le reste du pays, pas de précipitations en vue. Le ciel va rester bouché toute la journée du côté de la Bourgogne et du Lyonnais, alors qu'il va se dégager dans le nord-est. Un ciel un petit peu plus variable et parfois même lumineux dans les Hauts-de-France. Les éclaircies à Paris, a priori, c'est pour l'après-midi. Et puis après une belle matinée, le ciel se voilera au bord de la Méditerranée. C'est finalement un temps assez gris qui devrait s'installer entre Toulon et Perpignan, en raison des entrées maritimes. Et puis attention, pour la journée de dimanche, les pluies vont gagner le sud-est et on craint un épisode méditerranéen. Côté température, pour cette journée de samedi, elles sont parfois négatives au lever du jour dans les départements longeant la Belgique, le Luxembourg et jusqu'en Alsace. La journée, notez 5 degrés à Metz, 6 à Belfort, 9 dans la capitale, 10 à Tours et Grenoble, 12 à Limoges, 13 à Bordeaux, jusqu'à 18 à Nice, en Corse et au pied des Pyrénées.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy.
Et dans un instant, l'interview politique. Bonsoir Aurélie Herbemont, bienvenue dans ce studio. Aurélie, votre invitée ce soir ici même.
Emmanuel Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. On va parler du Black Friday.
Bien sûr, on vous retrouve dans une seconde.
L'interview politique dans votre grand journal du soir, c'est sur Europe 1. Et on retrouve Nathalie Lévy pour la suite de votre grand journal du soir, 19h12-13, même place à l'interview politique.
Avec vous Aurélie Herbemont et votre invité ce soir dans ce studio, Emmanuel Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Bonsoir à vous.
Bonsoir Emmanuel Wargon.
Bonsoir Aurélie Herbemont.
Vous êtes plutôt Black Friday ou Block Friday ?
Je suis plutôt, c'est bien qu'on se repose des questions sur la consommation de masse, notamment à l'occasion du Black Friday. Parce qu'on est quand même beaucoup matraqué par des pubs sur toutes les antennes, y compris celle-là, qui nous disent que c'est vraiment juste le jour pour acheter des nouveaux trucs. Et donc, il y a un débat sur finalement acheter toujours plus. Est-ce que c'est indispensable? Acheter pourquoi? On veut des quantités de choses qui donnent envie d'autres choses. C'était la chanson d'Alain Souchon il y a longtemps, Full Sentimental. Et donc voilà, se poser la question, c'est bien. Après, moi, je ne suis jamais pour le blocage.
Alors voilà, se poser la question, vous le dites, c'est bien. Il y a eu des sit-ins aujourd'hui devant des entrepôts d'Amazon et aussi des militants écologistes qui ont bloqué quelques heures le centre commercial à La Défense, plus grand centre commercial d'Europe, les Quatre Temps. Vous soutenez au nom de l'écologie ce genre d'initiative ou vous dites non, là, ça va vraiment trop loin?
Moi, je suis pour la liberté de circulation et donc je ne suis pas pour les blocages. Je pense qu'autant c'est bien de faire réfléchir, d'appeler chacun à se poser encore une fois des questions sur la société de consommation et le rôle que la consommation joue dans sa vie. Autant chacun a le droit de consommer quand il veut. Donc réfléchir, dire attention, tombez pas forcément dans le panneau de la surconsommation, mais pas de blocage.
Pas de blocage. Vous ne soutenez pas du tout ce genre d'initiative, même au nom de l'écologie?
Non, je crois qu'il y a d'autres manières d'avoir des prises de conscience. Encore une fois, beaucoup de voix qui se sont exprimées sur ce sujet, des voix au gouvernement, des voix dans les associations, et c'est bien. Mais dire il faut faire le bonheur des gens malgré eux et du coup on va les empêcher de consommer parce qu'il est... Non, ça je suis pas d'accord.
La surconsommation est mauvaise pour la planète et en même temps la consommation c'est bon pour l'économie, pour l'emploi. C'est un peu une ligne de crête.
En fait, on a une grande question devant nous qui est quel modèle de société, de production, de consommation qui est possible et souhaitable, sachant qu'il faut qu'on arrête d'épuiser les limites de la planète. Et donc cette grande question devant nous, c'est bien qu'on se la pose. Après, ça ne veut pas dire arrêter de consommer immédiatement. Ça veut juste dire trouver la bonne ligne de crête pour continuer à trouver une nouvelle forme de croissance économique, mais qui soit plus respectueuse à la fois de la lutte contre le réchauffement climatique et puis de la protection de la biodiversité. C'est possible et finalement, ces grands événements marketing, consommation, c'est l'occasion de le rappeler.
Vous, vous n'avez rien acheté aujourd'hui?
Non, moi, j'ai rien acheté aujourd'hui.
Rien acheté. Alors, Emmanuel Wargon, hier, vous étiez en déplacement avec le Premier ministre à Vendôme pour parler de l'écologie au niveau des territoires. Quand vous voyez les sondages pour les municipales qui placent les Verts à 20% à Bordeaux, à Lyon, à Montpellier, etc., vous ne vous dites pas, mince, personne ne nous trouve crédible sur l'écologie?
Mais au grand concours de l'interpellation, de l'exaspération écologique, c'est pas sûr que nous nous gagnions. Mais quand il s'agit de trouver des solutions concrètes, de montrer qu'on sait faire des choses, que ça avance, là, on a beaucoup d'histoires à raconter qui sont portées par l'État, par le gouvernement, avec des collectivités. Et c'est ça qu'on a voulu montrer avec le Premier ministre à Vendôme hier. Quand on signe un contrat de transition écologique à Vendôme, pour développer des nouvelles filières de formation de maintenance de véhicules propres, développer le gaz naturel vert, le biogaz, à la fois pour les revenus des agriculteurs avec la méthanisation et pour faire rouler des véhicules plus propres, là on est dans la transition écologique concrète. Quand je soutiens à Briançon le contrat de transition écologique dans le Grand Briançonnais, dans lequel on réintroduit des chevaux de labour pour transporter de façon propre les déchets qui après vont aller là aussi en méthanisation et en compost. Et ça va permettre de développer l'agriculture bio qui va permettre de faire des conserveries qui vont alimenter les écoles et l'hôpital. Ça, ce sont des projets qui sont portés par des élus et par des entreprises, mais avec l'État. Donc nous, on est sur une transition écologique concrète qui marche, qui avance et qui
et
là
qui
encore se fait
moins...
avec tout le monde.
Ben comment vous expliquez, alors, puisque vous le dites, vous faites des choses, comment vous expliquez que l'opinion ne fasse pas crédit à Emmanuel Macron, à son gouvernement, d'œuvrer concrètement pour l'écologie?
Moi, je crois que ça viendra. Je crois qu'on sera capable de montrer concrètement à la fois un engagement international fort, avec la COP qui arrive, les engagements que la France a pris. Et je rappelle que les gaz à effet de serre ont baissé. Les émissions de gaz à effet de serre l'année dernière, pour la première fois depuis quelques années. Pas suffisamment, mais ça a baissé. Donc à la fois des engagements internationaux, une action nationale, et puis du concret local. Mais du concret local, c'est plus difficile à montrer et c'est plus difficile de raconter ce qui va bien que d'interpeller sur ce qui ne va pas encore assez bien.
Vous trouvez que les écologistes sont de mauvaise foi et vous interpellent uniquement sur ce qui ne va pas?
Je trouve que les écologistes sont parfois dans le catastrophisme, dans une forme de jusqu'au boutiste un peu nihiliste qui ne sert pas à grand chose.
Ah oui.
Dans laquelle finalement on nous dit c'est terrible, rien ne va plus, il n'y a rien à faire, alors que nous cherchons à trouver une voie d'écologie de progrès, une voie d'écologie dans laquelle on montre qu'on peut agir. Et puis les écologistes sont dans les gentils et les méchants et nous on est moins là-dedans.
Vous allez loin, c'est un petit peu caricatural peut-être, non?
Ça dépend des cas.
Ça dépend des cas. Dimanche, Emmanuel Wargon, vous serez en séminaire à Matignon avec tous vos collègues du gouvernement pour parler de la réforme des retraites. C'est quoi? C'est du team building avant les blocages dimanche soir?
Non, mais c'est normal que le gouvernement se rassemble pour discuter des prochaines étapes de la réforme des retraites. Il y a eu beaucoup de travail fait. Le Premier ministre a reçu les organisations syndicales et patronales. Une discussion a eu lieu au dernier Conseil des ministres. Mais vous savez que tout le gouvernement n'est pas forcément au Conseil des ministres. Et du coup, là, c'est l'occasion de discuter avec tous les membres du gouvernement sur les fondamentaux de la réforme et le pourquoi. Parce que finalement, c'est ça la question la plus importante. Pourquoi on fait cette réforme des retraites? Pour refonder des régimes qui ne fonctionnent plus, qui ne sont plus soutenables dans le temps, pour aller vers plus d'universalité et plus de justice, pour discuter de l'essentiel et aussi pour rappeler qu'il existe des marges de négociation et de discussion. Et le Premier ministre l'a dit très clairement après le Conseil des ministres.
Le pourquoi, pour l'instant, du côté des syndicats, ce qu'a expliqué Édouard Philippe encore il y a quelques jours, ça ne fait pas du tout redescendre la contestation. Le pourquoi, les syndicats ne veulent pas du tout en entendre parler.
D'abord, on va voir comment s'expriment les Français autour du 5 décembre. Parce qu'il y a le discours des syndicats, il y a parfois le discours des syndicats nationaux et des syndicats locaux. En tout cas, c'est aussi une main tendue du Premier ministre pour dire il y a des fondamentaux dans cette réforme, l'universalité, le maintien de la retraite par répartition, c'est-à-dire une retraite solidaire. Et après, il y a beaucoup de points sur lesquels on est ouvert à la discussion, notamment à quelle génération ça va s'appliquer, comment est-ce qu'on fait la transition dans chacun des régimes spéciaux. Et donc j'espère que la négociation, la discussion va continuer.
Un dernier mot très rapide, Emmanuel Wargon. La CGT prévient, la mobilisation sera forte et durable. Combien de jours vous pouvez tenir?
Écoutez, on va voir ce que donne la mobilisation le 5 décembre. Il y a un droit de grève, il y a un droit de manifestation. C'est important que chacun puisse s'exprimer. On verra si ça se produit un jour, deux jours, combien de temps ça dure.
Ou plus, peut-être.
Nous verrons.
Vous verrez bien au pied du mur du 5 décembre. Merci Emmanuel Wargon d'avoir été mon invité.
Merci à vous.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy.
Restez avec nous à 19h30. Et si on plaquait tout pour changer de job, changer de vie, d'accord, mais comment le faire sans risque? Quelles précautions à prendre? On en parle avec ceux qui ont osé sauter le pas. Et avec vous aussi, c'est au 3921, bien sûr.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Il est 19h23, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy.
C'est déjà demain, hein, finalement, sur Europe 1, demain en France, demain dans le monde, demain dans nos vies. Avec, on va commencer d'ailleurs là, en région, à Fréjus. Ça se passe dimanche et lundi. On commémore les 60 ans de la catastrophe du barrage de Malpassé. On s'en souvient pas forcément, surtout les plus jeunes d'entre vous. Je vais vous rappeler le bilan, il était effroyable. 423 morts et disparus. Bonsoir Frédéric Michel.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant dans le sud-est de la France. Malpassé, c'est la plus grande catastrophe civile que notre pays a connue dans son histoire contemporaine.
Effectivement, Nathalie, il est 21h13 ce mercredi 2 décembre 1959. Il fait déjà nuit et soudain, un bruit, une vague, un torrent d'eau et de boue. Et la mort, le barrage situé à une vingtaine de kilomètres à Cédé, rempli pour la première fois par des pluies torrentielles qui viennent de s'abattre sur l'Estérel. C'est un peu le même phénomène météo que l'on a vécu le week-end dernier dans le sud-est. Mais là, 50 millions de mètres cubes d'eau déferlent jusqu'à la mer, ravageant la campagne, des villages et des quartiers entiers de Fréjus. La force, la vitesse de l'eau qui s'engouffre partout, rase tout sur son passage, arbres, routes, voies ferrées, fermes, maisons, immeubles. La vague atteint plus de 40 mètres. Quand le jour se lève, c'est un paysage de désolation. Parmi les 423 victimes, 135 enfants et il y a de nombreux orphelins comme Yvon Alamand.
J'ai perdu mon papa, ma maman, ma sœur qui avait 16 ans. Pour moi, je me suis pincé, je me disais mais il faut que je sorte de ce cauchemar. L'endroit où nous étions, c'était une station d'essence entièrement rasée. Même plus les fondations, même plus les citernes d'essence. Le hangar, on l'a retrouvé un peu plus loin, roulé en boule. Et on était quand même à 12 km du barrage.
C'est terrifiant. Frédéric, qu'est-ce qui a provoqué cette rupture du barrage?
L'enquête conclura un problème géologique. Pour faire simple, le sol sur lequel a été construit l'ouvrage n'était pas adapté. Il n'y aura aucun responsable désigné, mais à partir de cette date, chaque nouvelle construction nécessitera de nombreuses études.
Et pour cause, merci Frédéric. Différents hommages organisés donc ce week-end, lundi, dimanche déjà, en plus des expositions actuellement présentées dans deux musées de Fréjus, un film sur la catastrophe qui sera également diffusé au cinéma de la ville. On va quitter notre territoire pour aller voir du côté de la Turquie avec vous, Demain dans le Monde, Didier François, bienvenue.
Bonsoir.
Et alors franchement, on ne fait pas les choses à moitié de ce côté-là.
Là.
C'est cette charge très violente de Recep Erdogan, le président turc, bien sûr. Alors c'est cet après-midi même, il s'en prend à Emmanuel Macron comme il se doit. Il le traite, je cite, attention, d'amateur inexpérimenté, je préfère préciser, ne sachant, je cite encore, que fanfaronner, incapable de mener la lutte contre les terroristes. C'est pour ça, dit-il, que les Gilets jaunes ont envahi la France, car tu es en état de mort cérébrale. C'est comme ça qu'il a conclu, Erdogan, lors d'un meeting public à Istanbul. Et attention, le truc, c'est qu'ils se rencontrent. Ils se rencontrent quand? Mardi prochain, à Londres, au sommet de l'Entente, ça promet.
Oui, effectivement, c'est un véritable dérapage de satrape qui s'affranchit de tous les codes diplomatiques régissant les relations entre les États. J'étais d'ailleurs cet après-midi à l'Élysée pour préparer le sommet de Londres et les conseillers du président français ont réagi à la fois avec hauteur et une extrême froideur, faisant remarquer qu'Emmanuel Macron avait posé à la Turquie des questions très précises sur sa stratégie qui pourrait mettre en danger la sécurité de l'Europe. l'Europe et de l'OTAN et que ni la France ni ses autres alliés ne pouvaient se contenter d'une bordée d'insultes dans la presse en guise de réponse.
Ah oui, des faits, on veut des faits. Quelles sont ces questions qui fâchent tant le président Erdogan alors ?
Alors la première tient évidemment à son intervention militaire en Syrie contre les milices kurdes, partenaires des Occidentaux dans la lutte contre l'État islamique, ce qui crée d'ailleurs un risque de résurgence de la menace terroriste de Daesh. On rappelle à l'Élysée que la Turquie est officiellement membre de la coalition internationale contre le terrorisme, dont fait partie l'OTAN, et qui travaille sur le terrain avec les Kurdes. On souligne également qu'il est intolérable que la Turquie prennent en otage les plans militaires de défense de l'Alliance, c'est ce que dit un conseiller, dans la mesure où la Turquie joue de son droit de veto dans l'OTAN pour empêcher la ratification des accords organisant la défense des pays d'Europe centrale tant que l'organisation refusera de désigner les Kurdes comme des terroristes. Puis enfin, on attend des clarifications sur le fait que les Turcs ont acheté des systèmes de défense antiaérien très sophistiqués, à la Russie, qui non seulement ne sont pas interopérables avec les matériels des alliés de l'OTAN, mais qui en plus pourraient transmettre à Moscou des renseignements capitaux sur les dispositifs de l'Alliance. La rencontre de mardi, qui se déroulera avec le Premier ministre britannique et la chancelière allemande, promet d'être assez musclée.
On se souviendra de lorsqu'il s'agit de fanfaronner, tu sais très bien le faire. Hein. Et ben voilà. Merci beaucoup Didier François, c'était Merci. Adressé à Emmanuel Macron. Demain dans nos vies, Théophile Cossa est dans ce studio juste à mes côtés, à ma droite. Bonsoir Théophile Cossa.
Bonsoir Nathalie.
On va se projeter dans le monde de demain avec Internet qui se déploie partout sur la planète, même là où on ne l'attend pas. Dans les régions les plus reculées par exemple, comme l'Amazonie, on peut aussi avoir la 4G, ça c'est vrai. Grâce à des ballons qui flottent dans le ciel, c'est possible ?
Oui Nathalie, c'est possible. C'est une innovation un peu dingue, signée Alphabet, la maison mère de Google. L'idée c'est de pouvoir connecter le monde entier grâce à des ballons envoyés dans le ciel et qui jouent le rôle d'antenne. Ça ressemble en fait à des grosses méduses transparentes faites de plastique, gonflé à l'hélium et équipé de tout un tas de panneaux solaires et d'instruments. Ils font à peu près la taille d'un terrain de tennis, mais vous ne risquez pas de les apercevoir. Ils flottent à environ 20 km d'altitude, deux fois plus qu'un avion de ligne.
Ces grosses méduses, elles sont déployées où, au-dessus de nos têtes ?
Alors, pas exactement. Enfin, pas en tout cas, pas de nos têtes en tout cas. En fait, jusqu'à présent, ces ballons étaient employés pour fournir une connexion d'appoint aux zones sinistrées par des catastrophes naturelles, comme au Pérou en 2017, ravagées par des inondations monstres. Mais depuis un an, ces ballons, ils sont utilisés pour fournir une connexion Internet permanente au Kenya notamment. Et Alphabet vient même de signer un contrat avec le Pérou pour connecter, bah, vous l'avez dit, la jungle amazonienne. Il y a une vraie demande de la population, même dans les tribus les plus reculées. 200 000 personnes vont pouvoir accéder ainsi à la 4G et surfer sur Google,
oh là là.
Évidemment.
Ah, Google, quand tu nous tiens.
Voilà.
Merci beaucoup, Théophile Cossa, en tout cas. On se retrouve, nous, dans un petit instant.
Et oui, à suivre, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres, et juste après, si on changeait tout. En tout cas, de vie. Allez, on est partant. Oui, vous êtes tous partants.
On est partant.
Là, allez, mode emploi dans un instant. On s'approche du week-end.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir, la suite sur Europe 1, Nathalie Lévy.
Sébastien Krebs, de Nouvelles Infos.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson salue l'héroïsme des passants qui sont intervenus pour neutraliser le terroriste. Une attaque au couteau cet après-midi en plein cœur de Londres a fait plusieurs blessés graves. Le suspect a été abattu par la police. À retenir également ce soir les nombreuses actions des militants anti-Black Friday un peu partout en France. Des actions ont notamment empêché l'accès au centre commercial de la Défense à Paris. La SNCF et la RATP mettent en alerte leur cadre de réserve habilité à conduire train, métro ou RER pour tenter d'atténuer les effets de la grève de jeudi. Plusieurs ministres sont réunis ce soir à Matignon pour préparer ce 5 décembre. Le retour de la Ligue 1, 15e journée, Marseille-Brest, 20h45. Et puis le top départ du mondial de handball féminin, c'est demain. Les Bleus, championnes du monde en titre, affrontent la Corée du Sud à 10h.
Merci beaucoup Sébastien. L'info revient avec vous dès lundi, 18h. Merci à vous. Et Marlène, eh bien, il faut se préparer voilà, à être équipé tout le week-end.
Pensez à vos parapluies. En tout cas, ce samedi, si vous vous trouvez dans les régions allant de la Bretagne et du Cotentin au Poitou et au Pays Basque, avec sous la pluie quand même quelques rafales de vent à 50-70 km à l'heure, les vents qui faibliront en revanche dans le sud-est par rapport à la veille. Ces pluies vont balayer le pays d'ouest en est, et c'est important. Un dimanche qui s'annonce agité en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on parle d'un épisode méditerranéen moins intense que celui du week-end dernier, mais sur des sols gorgés d'eau, eh bien, il faut rester vigilant. Les maximales du côté des températures, allez, 5 à 8 degrés sur le Grand Est, 9 à 12 sur le quart nord-ouest avec un 9 degrés pour Paris, 11 à 15 sur la moitié sud du pays avec des pointes à 18 du côté de Nice, ainsi qu'au pied des Pyrénées.
Europe 1.
Jusqu'à 20h, vous écoutez votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Comment faire pour changer de job, peut-être changer de vie ? On en parle ce soir avec mes invités dans ce studio. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bienvenue à Philippe Gabillier. Vous êtes professeur de psychologie sociale à l'ESCP Europe. Vous avez écrit « Changer de vie » en 5 leçons aux éditions Saint-Simon. Et on accueille également Damien Zeller. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes ex-directeur commercial de la société de services informatiques Capgemini et vous êtes maintenant boucher à Versailles. Je me pince presque, mais j'adore l'idée. Merci à tous les deux d'être ici dans ce studio. Moi, je me pose une question et je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui se la posent, Philippe Gallier. Quand est-ce qu'on sait qu'un changement de vie urge ?
Je ne suis pas sûr qu'on le sache, mais en revanche, on le sent. À un moment donné, on se rend compte qu'on n'est plus aligné. Alors, ça peut être des petites choses. Ce n'est pas toujours très grave, ce n'est pas toujours un grand drame. Mais on se dit, non, ça, quelque chose ne va plus. Alors, ça peut être dans ma relation avec les autres, ce que je pense quand je viens à mon travail le matin. Quand je me pose la question, mais qu'est-ce que je pense de l'homme ou de la femme que je suis en train de devenir, dans le fond ? Pourquoi je suis là ? Comment j'ai fait pour arriver là ? Et on se rend compte que tout d'un coup, il y a quelque chose qui manque. Qui manque pour, alors là on peut compléter, pour se sentir mieux, pour être plus heureux, pour se sentir plus aligné. Il y a quelque chose manque et donc il va bien falloir changer quelque chose. Ça ne veut pas dire tout chambouler,
bien sûr.
Mais il va bien falloir changer quelque chose.
Damien Zeller, vous opinez du chef, c'est ce qui s'est passé chez vous ?
Ah oui, tout à fait, oui. Oui. Je pense que...
Comment ça s'est traduit concrètement ? Et sur combien de temps ?
Sur combien de temps ? Je pense avoir pensé à cette reconversion pendant 6 mois.
Ah, c'est court.
Oui, c'est assez court, mais pendant 6 mois, et je me suis dit, est-ce que mon métier a du sens ?
Mais il y avait eu quoi ? Pardonnez-moi, je ne veux pas être intrusive, mais quand même, il y a eu un burn-out, il y a eu un trop-plein, il y a eu effectivement plein de petits signaux ?
Non, pas de burn-out. Moi, je suis heureusement passé à côté de ce genre de choses. Mais non, je voulais donner un sens à ma vie.
C'est ça.
Et en fait, j'ai un lien très fort avec la Corrèze, dont je suis originaire. Et je voulais justement avoir ce lien et faire ce lien dans mon métier.
Ouais, c'est ça, retrouver, redonner du sens à sa vie, à son activité, à son job. Parce que Philippe Gabillier, là, Damien Zeller nous dit que ça a mis 6 mois. 6 mois, moi, je trouve que c'est assez court quand même pour changer complètement de vie. Je rappelle que vous étiez ex-directeur commercial de la société de services informatiques Capgemini, c'est pas rien. Comment on s'organise quand même ? Parce qu'il faut verrouiller tout ça, il y a des erreurs à ne pas commettre.
En fait, on se rend compte quand on discute avec toutes celles et ceux qui ont fait sauter le pas, qu'en fait, parfois, ce qui est le plus compliqué, c'est de déconstruire l'existant. Et je ne dis pas d'ailleurs détruire, hein, c'est déconstruire. C'est-à-dire, voilà, on était insérés dans des réseaux de famille, de travail.
On a un confort, une sécurité.
La réaction généralement de l'entourage n'est pas obligatoirement facilitante. C'est rarement, mais quelle bonne idée, formidable, vas-y, tu aurais dû faire ça plus tôt. Donc il y a aussi des négociations, dans le bon sens du terme, mais à faire avec parfois son entourage familial, arriver à convaincre. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand on change de vie, les gens se disent, oui, mais quand tu changes de vie, tu sors de ta zone de confort. On constate qu'en fait, souvent, quand on décide de changer de vie, on fait sortir les autres, et surtout ceux qui nous aiment, de leur propre zone de confort. Et c'est ça qui va poser problème.
Comment vous avez discuté, négocié, annoncé, Damien Zeller, vous, votre changement qui est radical ? On le rappelle, vous êtes bouché à Versailles.
Oui, tout à fait. En fait, moi c'est effectivement très simple. Hein. C'est une aventure familiale. Sans effectivement l'accord de ma femme et de mes enfants, je n'aurais pas parti là-dedans. Moi, c'était ma passion, et je l'ai effectivement mûri. Mais ma femme a été effectivement l'élément déclencheur. Si elle avait refusé que je parte là-dedans, je ne serais pas parti là-dedans.
Vous n'y seriez pas allé.
Non.
D'accord.
Exactement.
Évidemment, je vais vous demander si vous êtes heureux aujourd'hui, mais j'attends un peu pour vous poser la question, parce que avant ça, il y a évidemment l'adaptabilité, il y a la capacité à, il y a encore une fois le regard des autres, il y a savoir si on veut un retour à l'essentiel ou si on veut partir à l'autre bout du monde. Il y a quand même différentes manières de changer de vie.
Oui, il y a des manières, on va dire, plus ou moins... Il y a plus
réaliste,
ou moins de
ouais. si
alors
réaliste
ou en tout cas on a du mal évidente. À savoir ouais. avant. En revanche, il existe des changements qui sont des petits changements, mais qui vont en fait tout changer. Parfois, ça peut être un changement de décor. Simplement, le fait d'avoir décidé de déménager dans le même métier va en fait tout changer. Ou au contraire, je reste dans la même ville, mais je vais quand même changer d'entreprise ou changer de métier. Il y a des changements qui sont des changements, comment vous dire, de mouvement. Et puis, il y a des changements de reconfiguration. C'est-à-dire qu'on va avoir un changement qui va radicalement modifier tout le reste. À la fois mon activité, mon rythme de vie, le lieu où je vis, ma relation avec les autres. Donc, il y a vraiment des changements de reconfiguration.
On s'en reparle dans un instant. On a tous envie de changer de vie. Je ne sais pas si ça transpire, peut-être chez moi. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. 19h40, vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1. Notre débat sociétal ce soir, changer de vie, changer de profession avec vous Nathalie Lévy et vos invités. Philippe Gabillier, professeur de psychologie sociale, auteur du livre « Changer de vie en 5 leçons » aux éditions Saint-Simon. Et Damien Zeller, ex-directeur commercial devenu boucher.
Ah oui, Capgemini et boucher maintenant à Versailles, mais deux boucheries.
Deux boucheries, ouais. Oui. Depuis un an, la deuxième a effectivement été ouverte.
Damien Zeller, oui. Vous avez tiré la langue quand même. Ne me dites pas autre chose.
Mais bien sûr.
Ça a dû être terrible, ça a dû être très compliqué parfois.
Mais passer effectivement d'un rôle de directeur commercial dans les tours de la Défense à un étal de boucher et
les horaires qui vont avec.
Et le matin à Rungis, etc. Effectivement, j'ai tiré la langue. Ensuite, c'est un rythme que vous prenez. Et puis surtout, vous avez l'envie, la passion qui vous lève le matin. Et ouais. Moi, je suis très heureux de me lever à 4h du mat le matin pour exercer mon métier actuel.
Donc voilà, vous nous l'avez dit, vous êtes très heureux. Pas de regrets à aucun moment.
Aucun
et
regret.
Quand vos copains ou vos ex-camarades de ex-Gemini, évidemment, sans doute vous interrogent ou peut-être, vous interrogent, ils vous envient un peu.
Je trouve qu'il y a dans leur regard une petite envie, quoi. Ouais. Il se dit, oh, celui-là, il l'a fait, il a basculé, il a eu la chance ou en tout cas le courage de le faire.
Alors, Philippe Gabillier, ex-directeur commercial pour Damien, il y a comme ça des secteurs, des catégories socio-professionnelles qui sont plus touchées que d'autres pour ce changement de vie ?
Très sincèrement, tout le monde. Tout le monde en a même des cas aujourd'hui tout à fait nouveaux. Bon, moi, je suis professeur dans une école de management.
Bien sûr.
On a ce qu'on appelle aujourd'hui des bifurcations professionnelles précoces. C'est-à-dire des jeunes garçons et des jeunes femmes. Ils ont fait les plus grandes écoles. Vous mettez le nom que vous voulez derrière. Ils travaillent pendant 2 ans dans des grands cabinets, etc. Et au bout de 2 ans, tout d'un coup, alors qu'ils ont à peine 27 ans, 28 ans, ils disent « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Qu'est-ce que je fais là? J'ai jamais voulu faire ça. Moi, je veux, et vous allez avoir à 27 ans le réflexe, boucher, boulanger, je pense à une étudiante charpentière, elle fait 1m60, mais elle m'a dit, mais Philippe, le bois, ça a toujours été ma passion. Alors, bien évidemment, après, la question, c'est de savoir jusqu'où on va aller pour aller au bout de son rêve. Quitte d'ailleurs, parce que la vie est ainsi faite, à revenir parfois en arrière, mais au moins, on ne regrettera
pas. Ça arrive,
ça? Bien sûr, mais tout peut arriver parce que la vie change.
Bien sûr. Damien Zeller, petite question. Quand vous regardez, vous humez, vous avez dans vos mains vos produits, c'est là que vous vous sentez vivant ?
Ah oui, moi j'adore le contact. C'est quelque chose qui me plaît, évidemment. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui vous répulse.
Et alors, ok, ça vous plaît. Et vous voyez faire ça toute votre vie, là, maintenant ? Vous êtes jeune, vous avez quel âge ?
J'ai 50 ans.
Vous avez 50 ans, vous ne les faites pas. Vous voyez faire ça encore 25 ans, peut-être ?
Pourquoi pas, on verra. J'ai d'autres projets peut-être aussi en tête. En fait, je suis quelqu'un de curieux, donc pourquoi pas me projeter sur autre chose.
Votre sécurité, c'était un matelas financier, on peut le dire. Il fallait ça de toute façon, sinon vous n'auriez pas sauté le pas.
Bien oui, c'est nécessaire. Moi, j'ai 5 enfants, donc il ne faut pas que je me plante.
Ah bah, évidemment. Voilà. Alors voilà, donnez-nous, Philippe Gabillier, quand même quelques clés. Comment on fait pour ne pas se planter ? Parce qu'il faut quand même une sécurité financière au minimum.
Alors, il faut savoir que d'ailleurs, dans ce qui peut arrêter les gens face à un projet comme ça, le fait de se dire, est-ce que le matériel suivra ? Est-ce que mon banquier me suivra ? Alors, c'est, je crois, la deuxième ou la troisième raison pour pas y aller. Première chose, probablement, quand on veut changer de vie, on en avait d'ailleurs parlé, c'est commencer par se poser la question, même si je change tout, qu'est-ce que je n'ai pas du tout envie de changer ? Qu'est-ce qui est mon socle, il est où ? Là, en l'occurrence, c'était la famille, le conjoint, les enfants. Voilà, ça, c'était un élément clé. Voyez. Et deuxième élément clé aussi, pour ne pas se planter, toujours se dire, si je veux vraiment changer, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre que je ne connais pas encore ?
D'accord, alors voilà deux éléments. On a Pierre depuis la Vendée qui nous appelle ce soir. Bonsoir à vous, Pierre.
Bonsoir.
Vous savez de quoi on parle, hein ?
Un petit peu.
Alors racontez-nous en quelques secondes.
Et en quelques secondes, je travaillais dans une usine là, qui appartenait à un grand groupe, une multinationale. Et puis ça a commencé à battre de l'aile un petit peu. Ils ont proposé des départs volontaires. J'avais de l'ancienneté. Je partais avec des bonnes conditions. Et puis j'ai sauté le pas et je me suis lancé dans l'artisanat.
Et aujourd'hui, vous vous sentez comment ? En phase ? En ligne ?
Ah oui, oui. Oui, oui, c'est complètement différent à tous les niveaux parce que il faut s'occuper de tout. Hein. Je suis président, directeur général, balayeur, enfin tout. Je travaille tout seul et c'est mon souhait. Mmh. Mais voilà. Mais après, maintenant il y a le contact. Alors avant, un boulot d'usine, on a le contact avec les collègues, c'est sympa aussi, mais ça n'a rien à voir.
Merci beaucoup Pierre, depuis la Vendée ce soir sur Europe 1. Merci à vous deux, messieurs Damien Zeller, Philippe Gabillier. Damien Zeller, votre femme, elle est toujours aussi heureuse ?
J'espère. Faut
non, parce qu'elle vous a, elle vous a signé un chèque en blanc finalement.
Oui,
parce que vous
totalement.
Me disiez, elle supporte aujourd'hui les horaires, la nouvelle vie.
Elle le supporte, c'est l'amour certainement.
C'est ça.
Le chèque en blanc d'amour, bon. C'est toujours couvert.
C'est ça. Vous nous avez donné aussi les clés, Philippe Gabillier. Merci à vous. Vous êtes prof à l'ESCP Europe et vous avez signé Changer de vie en 5 leçons que je vais me procurer aux éditions Saint-Simon. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Europe 1.
À suivre de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
C'est bientôt le week-end, donc on va vous donner plein de bons plans dans un instant. Des sorties, des expos, de la gastronomie, Marion Sauveur arrive dans un tout petit instant.
Et Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Il est 19h48 et nous écoutons Nathalie Lévy jusqu'à 20h, votre grand journal du soir. C'est aussi la culture au sens large et dans la playlist du 18-20. Qu'est-ce qu'on s'écoute ce soir, Nathalie?
Un peu de son, le nouvel album de Renaud. J'aime rien.
J'aime pas quand même. Dans ce cas-là, je pars, comme dit le poème, je crois, de Sandra. Pareil que je suis un misanthrope, faudrait que je demande à mes potes. Et j'ai déjà dit, j'aime même pas mes potes. J'aime rien, ni personne.
Les mômes et les enfants d'abord, c'est le titre du nouvel album de Renaud, sorti aujourd'hui même, un album qui tourne autour du thème de l'enfance. Vous l'avez compris, cher Renaud, 12 chansons inédites écrites par Renaud lui-même, illustrées par le papa de Titeuf, Zep.
Prochain titre, lundi, dans la playlist du 18-20. La culture au sens large, Nathalie Lévy, c'est vendredi Europe 1, se met en mode week-end, bon plan, sortie, dégustation, c'est avec Marion Sauveur et Judith Weintraub.
Vintraube. Bah oui, je la connais bien, Judith. Attention.
Rédactrice en chef au Figaro Magazine. Mais j'avais une chance sur deux.
Grand reporter au Figaro Magazine. Mais on est ravis de vous accueillir, merci. Judith. Merci d'être là. Ce partenariat avec le Figaro Magazine. Tiens, je montre la une déjà à la caméra. Algérie, la bombe à retardement. C'est le 12 décembre, les élections sur place. On va fouiller dans le magazine dans un instant avec vous. Marion Sauveur, ça sent très très bon. Je suis affamée. Vous nous avez apporté une belle tranche de pâté en croûte.
Oui, mais pas n'importe quel pâté croûte. Le plus grand.
Ah, on dit pâté croûte, pas pâté en croûte.
Ah, je suis lyonnaise, alors bon, on dit pâté croûte. Okay. C'est un véritable travail d'orfèvre. Chaque tranche est constituée de plus d'une dizaine de viandes différentes, ce qui fait apparaître un magnifique damier, comme vous pouvez le voir. Il porte le nom de l'oreiller de la belle aurore. Et je vous laisse goûter, parce que celui-ci est chaud.
Et c'est, pourquoi on l'appelle comme ça?
Alors, il y a toute une histoire d'amour, en fait, derrière. Ça remonte au temps du gastronome Brillat Savarin, au XVIIIe siècle. L'un de ses cuisiniers est tombé amoureux de sa maman, Claudine Aurore Récamier. Elle aimait bien la bonne chair et notamment les oiseaux sauvages. Et c'est pour ça qu'il lui a conçu ce pâté croûte avec un très grand nombre de viandes, volailles, gibier, des farces, du foie gras, des pistaches et des truffes pour lui déclarer sa flamme discrètement. C'est une manière un peu particulière. C'est un pâté croûte rectangulaire qui ressemble en fait à un oreiller normalement d'une trentaine de kilos. Et pourquoi l'oreiller? Pour lui faire comprendre qu'il aurait bien partagé un coin d'oreiller avec elle. Est-ce que c'est pas romantique?
C'est magnifique. Alors j'arrive pas à savoir ce qu'on a là.
Il y a plein de viandes différentes. C'est vraiment des gibiers, du lapin, vraiment plein de viandes complètement différentes. Magnifique. C'est une réinterprétation de l'oreiller de la belle aurore de Gilles Véraud. C'est une grande maison de charcuterie parisienne. Alors on n'a pas la recette exacte de l'époque. Alors celui-là, il est chaud, comme vous pouvez le déguster, Nathalie.
Magnifique.
Gilles Véraud estime qu'il est meilleur comme ça, chaud, parce qu'on sent mieux les différentes viandes. Alors, il faut imaginer l'énorme travail de montage de toutes ces viandes. Chaque tranche, c'est une véritable mosaïque et c'est un goût fondant très, très fin.
Ah oui.
C'est un véritable joyau.
Franchement, j'en ai déjà goûté, mais alors on est très très loin du compte là.
Et ça se fait que 4 fois dans l'année, donc à Paris, par Gilles Véraud. C'est le 3e qu'on peut découvrir demain dans ses boutiques à Paris. Le dernier, ce sera le 25 janvier prochain. Et vous en trouvez aussi à Lyon, alors pas tout de suite. Vous en trouverez à la maison Renaud, où Gilles Véraud s'est formé. Attention, c'est pas encore en vente, donc c'est du 28 décembre au 25 janvier. Et à Lyon, la tradition, c'est de l'acheter entre Noël et le jour de l'an. Mais allez, on laisse un mois pour avoir le temps.
Oui, mais Marion, du coup, si ce sont comme ça des morceaux choisis véritablement, il y a un prix qui va
Il y a un vrai prix. Ouais. La tranche là qui fait 250 grammes, c'est 24 €. Mais je vous l'ai dit, c'est un travail d'orfèvre.
Exactement.
Pas une grosse production, beaucoup de travail.
Merci beaucoup Marion Sauveur, on parle pas la bouche pleine, pardonnez-moi. On vous retrouve demain dans l'émission de Laurent Mariotte, Les Bons Vivants, à partir de 11h sur Europe 1, absolument. Judith Weintraub, vous avez pas la bouche pleine.
Non, ça y est, mais qu'est-ce que c'est bon. Il y a quelque chose de croustillant. Ouais. C'est très bon.
Tout à fait savoureux. Alors, ce partenariat avec le Figaro Magazine, donc on est ravis de vous avoir ici. Judith, d'abord, on file vers New York.
Exactement.
Visite guidée avec vous.
C'est Frédéric Beigbeder qui nous emmène pour une visite guidée du New Yorker. Vous savez, ce très, 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 très prestigieux magazine qui a des dessins extraordinaires, qui, pour la première fois, sont publiés avec des légendes traduites en français, ce qui est très très bien. Alors, ça fait deux énormes bouquins, 2500 dessins légendés, donc un très beau cadeau de Noël au hasard, édition Les Arènes, 149 €.
C'est un papier de Frédéric Beigbeder.
C'est un papier de Frédéric Beigbeder, je l'ai dit au début.
Oh, pardon.
Il y en a qui ne suivent pas.
Si, mais parce que je mâchais en même temps.
Et qui raconte des trucs très marrants. Et notamment, il a rencontré la patronne des journalistes qui s'appelle Emma Allen. Et qui dit « Mon job consiste à refuser des dessins à une bande de névrosés tout en leur donnant envie de continuer à en proposer. Bon, » C'est un truc d'esclave, de fou. Il y a 800 dessins proposés par numéro. Chaque dessinateur, ils sont 40, doit en proposer 20. Il y en a un qui est retenu. Vous imaginez
C'est sacré. Les enchères du cheval de Sceaux, comme si on y était.
Complètement différent. C'est le 5 décembre, une date qui parlera à tous nos auditeurs.
Bah, normalement, voilà.
Je vous propose d'en passer au moins une partie au Cirque d'hiver.
Si on y arrive.
Vous allez voir quelque chose de tout à fait étonnant. C'est une première. C'est sur un écran géant. Une vente aux enchères des 20 plus beaux chevaux de jumping, en français de saut, en pleine action. Et vous pourrez suivre les enchères sur une plateforme en ligne. Donc ça fait rêver parce qu'évidemment, les prix sont, à mon avis, à la hauteur de l'exploit. Donc je ne vous les donnerai pas. Et après ça, vous n'aurez plus qu'à rentrer chez vous à cheval.
Allez, Les Femmes de l'Ombre de Rémy Koffer aux éditions Perrin, c'est-à-dire, Judith.
Les Femmes de l'Ombre, c'est un thriller, mais que thriller, je veux dire en français, mais que avec des histoires vraies,
des
plus
espions, c'est ça ?
Secrètes, oui. Des histoires secrètes. Rémy Koffer, c'est un historien du renseignement qui a fait une histoire mondiale du renseignement qui a été formidable. Et là, il fait le portrait de femmes agents secrets de absolument tous les pays. Et il part du 17e siècle et il arrive à nos jours. Alors, vous avez de tout. Vous avez des Françaises dans la Résistance, mais aussi dans la DGSE. Des Israéliennes du Mossad, les Chinoises du Guanabu, et pardon pour la prononciation, mais bien sûr des Russes, des Britanniques, des Américaines. Enfin, c'est
contemporain,
passionnant.
Contemporaine.
Il y a de tout. De 17e à nos jours.
Voilà. Et puis cette couverture, on l'a dit.
Voilà.
Algérie, la bombe à retardement, votre reportage dans le Figaro Magazine avant
là,
ces élections du 12.
C'est une autre femme intrépide qui s'appelle Najat Cherigui, qui est allée pour nous en Algérie en ce moment. C'est pas facile, ça fait 9 mois qu'il y a une protestation qui a d'ailleurs abouti à la démission du président Bouteflika. Il y a des présidentielles qui sont organisées le 12 décembre. Avec des candidats qui sont tous peu ou prou liés à l'ancien régime, une répression de plus en plus sauvage, elle a pris tous les risques, elle est allée à la rencontre des Algériens pour savoir quelles étaient leurs attentes, et on voit qu'en fait c'est des choses très, très élémentaires, très quotidiennes, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait du gaz, qu'il y ait de l'électricité. En fait, on s'aperçoit que c'est la corruption à tous les étages. Au sommet du régime ex-régime Bouteflika, mais dans la moindre administration, il faut payer pour avoir le droit de se pointer au guichet.
C'est ça. 5 candidats en lice, aucun ne tire son épingle du jeu, effectivement, Judith. Et ses attentes, ses espoirs de la population. Voilà. L'Algérie, le 12 décembre, ces élections qu'on suivra, bien sûr, et qu'on vous fera vivre sur Europe 1. Merci beaucoup, Judith Vintrop. C'était un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, Marion Sauveur. À demain, 11h avec Laurent Mariotte. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Marlène, de nous avoir accompagnés. On vous souhaite un très bon week-end, une très belle soirée. On a Émilie Mazoyer en ligne.
Oui, qui rêve de lire le New Yorker en mangeant du pâté en croûte. Est-ce que c'est
pas
possible?
Il en reste. C'est bien, il pleuvra ce week-end, c'est parfait.
Voilà, c'est bien, c'est mon programme. Ce soir, nous, comme tous les vendredis, on va écouter toutes les nouveautés qui sont sorties ce matin. Et puis, on sera au téléphone avec un artiste électro qui s'appelle Vinci. Il fait partie de C2C.
Waouh! bien.
Et Vinci, il fait partie d'une bande de musiciens nantais qui organise chaque année un joli concert qui s'appelle Les Rockeurs ont du cœur. Pour rentrer dans le concert, vous apportez un jouet neuf et emballé qui sera offert aux enfants à Noël.
Ah, très bien en plus, belle action. Ouais, belle action. On adore là, on adore. Moi, je reste avec ce morceau-là.
Merci, Émilie Mazoyer.
Merci, bon week-end.
Merci à vous. Et très c'est... belle émission. 18-20, lundi, vous serez au rendez-vous, vous, sur Europe 1. On espère, en attendant, merci d'écouter Le Monde Changer.
Et c'était Nathalie Lévy. Europe 1.